Alors un petit préalable, c'est pas moi qui étais prévu au départ et je tiens à excuser les collègues de l'ANA de la Vienne hein, qui ont vraiment pas pu se libérer ce soir. Donc je viens des Deux-Sèvres, de la direction départementale des territoires. Je connais aussi l'ANA, j'y ai travaillé de nombreuses années. Maintenant, je suis plutôt sur l'assistance conseil, mais je continue à me préoccuper des questions d'habitat. Et nous avons fait un forum aussi en Deux-Sèvres sur les mêmes thématiques. Et j'avais déjà participé, d'où la prise de contact pour cet atelier. Donc, la précarité énergétique. De quoi parle-t-on, en fait ? Le terme peut paraître évident à tout le monde, mais il faut se mettre d'accord sur la définition que l'on a donnée. Alors la définition que moi je vous livre, c'est celle qui a été retenue par l'État pour travailler sur cette question-là, notamment dans la mise en place du Grenelle de l'environnement, hein, du code sur le plan bâtiment. Donc, trois facteurs principaux, ça n'a pas été inventé par le Grenelle, hein, la précarité énergétique, hélas, elle existe depuis bien longtemps. Donc, trois facteurs principaux, des ménages vulnérables de par la faiblesse de leurs revenus, la mauvaise qualité thermique des logements occupés et le coût de l'énergie. Alors, sur ces deux points, il y a des choses qui sont très intéressantes à lire. Il y a le rapport de M. De Quéraud et Bernard Lapostelet, donc un duo entre l'ANA et puis la Fondation Abbé Pierre, sous la responsabilité de M. Philippe Pelletier, qui a été remis au gouvernement le 6 janvier 2010 et qui laisse entrevoir des possibilités de financement spécifiques. Bon, les choses ne sont pas encore très bien calées aujourd'hui, mais s'il y a des questions sur le sujet, je pourrais éventuellement vous répondre. Et puis aussi une étude assez intéressante sur la précarité en Europe sur le site, alors vous avez le www.epe2009.eu qui donne un regard très intéressant sur ce qui se passe chez nos voisins, puisque c'est hélas quelque chose qu'on partage sur différents territoires. Alors la précarité énergétique, la nécessité d'agir. Évidemment, je travaille pour les services de l'État, donc je vous parle Grenelle d'environnement, mais il n'y a pas besoin de ça pour savoir qu'il y a une urgence. Il y a un constat, alors les chiffres que j'ai repris sont assez généraux, je crois qu'on aura des précisions sur la région plus tard. La part des dépenses d'énergie dans le logement est passée de 10 à 15% pour les ménages les plus modestes. Donc selon l'INSEE, c'est 3 400 000 ménages. 13% des ménages qui consacrent plus de 10% de leurs ressources à payer les factures de chauffage. Alors évidemment, ce 10%, c'est ce 13% des ménages, c'est un plafond bas, puisque c'est le coût de l'énergie, mais quand on ne se chauffe plus, bah évidemment, il n'y a plus de coût. Mais la situation n'est pas meilleure pour autant. Donc, on est vraiment sur un phénomène qui est très important. Alors, on aurait pu aussi, on parle de précarité énergétique par rapport au logement, mais l'énergie, c'est aussi les questions de déplacement, évidemment. Ça n'englobe pas que la vie à l'intérieur de son logement, c'est aussi le rapport qu'on peut avoir finalement avec l'extérieur, la capacité à se déplacer. Et sur les territoires ruraux, comme celui des Deux-Sèvres, eh bien, on a souvent, on cumule, c'est-à-dire qu'on a un logement mal isolé, mal chauffé, et puis on est assez loin dans la campagne, et la question des transports en commun, hein, on a des discours très bétonnés sur le sujet, on habite là où il y a des transports en commun, sauf que pour le rural, c'est vraiment une question qui est très très difficile à résoudre, quelles que soient les tentatives des collectivités qui ont été le bus gratuit, oui, mais le bus gratuit, en même temps, on ne peut pas aller forcément partout, à toute heure. Le transport à la demande qui se développe, tout ça, ça ne résout pas non plus la question de l'accès aux services pour ceux qui habitent dans le territoire rural. Alors, la précarité énergétique, on pense évidemment aux ménages défavorisés, mais ce n'est pas uniquement les ménages défavorisés, ce sont aussi des ménages modestes. 87, alors c'est les chiffres qui sont issus toujours du rapport Pelletier, 87% d'entre eux sont logés dans le parc privé, 70% d'entre eux appartiennent au premier quartile de niveau de vie, 62% sont propriétaires, 55% d'entre eux ont plus de 60 ans et plus d'un million de ces propriétaires résident en maison individuelle. Quand on lit ces chiffres-là, on y voit pour les Deux-Sèvres et sans doute aussi pour une partie de la Vienne, pas mal de gens qui sont dans ce genre de situation. Hein. Donc on a l'habitude assez facilement dans le milieu du logement, quand on pense à logement défavorisé, on pense tout de suite HLM, quartiers sociaux. Non, ce n'est pas uniquement cette approche-là qu'il faut avoir. Et la France toute propriétaire, ça peut aussi être la France propriétaire en difficulté. Pour ces ménages, les conséquences de la précarité énergétique sont les suivantes. Donc impayés, endettement progressif, coupure d'énergie, restrictions et privations de chauffage, problèmes de santé, maladies respiratoires, surmortalité hivernale. Alors, sur l'enquête européenne, il y a des chiffres qui sont assez intéressants. Je crois que c'est en Angleterre qu'il y a eu une approche intéressante sur les conséquences sur la santé. Le repli chez soi et puis l'isolement social. Donc au jour où on parle de l'énergie au sens de son rapport à la planète, l'énergie va s'épuiser, celle du sol va s'épuiser. Il y a le gaz à effet de serre, c'est des sacrés problèmes pour la planète, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont d'autres problèmes qui sont très concrets et immédiats, qui sont leur santé et leur mal-être. Agir. Comment ? Alors, je vais me défiler. J'ai évidemment pas la solution. C'est peut-être ce qui fera l'objet de notre débat. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant.
Eh ben écoutez, c'est très bien en guise d'introduction. Voilà. Vous n'allez pas partir comme non, ça, non, vous rigolez. Petite question. J'ai peut-être mal noté. La date de cette étude, ça remonte à quand ?
Le rapport Pelletier ? Oui. Il a été fait en 2009 et il a été rendu là en janvier 2010.
Donc il est quand même, c'est vraiment les derniers chiffres,
oui,
d'accord. Cette précarité énergétique, ça fait longtemps qu'on s'en préoccupe ?
Alors, qu'on la nomme comme ça, c'est récent, mais ça c'est des questions de label. qu'on s'en préoccupe, oui. Les fonds sociaux, les fonds de solidarité logement,
dont on va parler tout à l'heure,
existent depuis fort longtemps. Mais on était... je dirais que l'accent aujourd'hui, alors bien sûr, il y a des gens qui ont fait des choses formidables à droite et à gauche, mais dans les politiques publiques, l'accent, il était plutôt mis sur la réparation plutôt que sur l'anticipation. Parce que le Fonds Solidarité Logement, par exemple, alors c'est pour les gens qui ont des impayés alors de loyers, mais aussi de charges. Maintenant, ça a été regroupé. Bon, le Conseil général doit connaître ça, puisque c'est maintenant les conseils généraux qui les gèrent. Avant, c'était partenariat État-Conseil général. On était sur le comment on va payer la facture qui n'a pas pu être honorée. Et aujourd'hui, on est sur une autre approche qui est d'éviter finalement l'impayé et d'avoir un autre rapport avec l'énergie et avec la consommation par rapport au bâtiment. Mais on est aujourd'hui, je pense, dans la bascule globalement par rapport à toutes ces questions-là. On a vécu les 30 glorieuses, on l'appelle la société montgolfière, tout ce qu'on veut, où la technique était le progrès et le progrès social. Donc, on allait vers le chauffage central, on allait vers l'électricité, et tout ça, c'était de l'enthousiasme, et tout le monde accédait à ces choses-là, et la technique devenait un petit peu miraculeuse, quoi. Et on ne s'est pas préoccupé, finalement, de la pérennité, de la fiabilité et des conséquences sur la consommation. Et évidemment, ceux qui décrochent, c'est forcément ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, le problème de la charge qui correspond au fonctionnement du logement, on s'en est préoccupé depuis longtemps. Maintenant, on va plutôt travailler, je l'espère, sur les causes plutôt que sur les conséquences.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez surtout pas.
Moi, j'avais une question. Philippe, enfin, je suis sociologue à Poitiers. J'avais une petite question, en fait. Deux questions. Est-ce que le terme précarité, en tant qu'euphémisme, est le bon terme ? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas parler de pauvreté ? Et puis, après, qu'est-ce qu'on gagne à découper la pauvreté en registres spécialisés, pauvreté énergétique, pauvreté santé, pauvreté déplacement ? Est-ce que ça nous donne une meilleure chance de résoudre les problèmes en découpant la pauvreté en tranches ? Ou est-ce que ce n'est pas une manière de camoufler la pauvreté ?
Alors, sur la première question...
Euphémisme ou pas ?
Ouais, alors, moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste, certains diraient naïf. Précarité, oui, on parle bien de pauvreté, mais précarité laisse espérer qu'on puisse... y remédier. C'est peut-être une façon peut-être de déguiser la réalité, c'est vrai, mais on peut aussi...
Enfin bon. On sait que quand on emploie des euphémismes,
ouais.
C'est une manière de ne pas aborder la réalité.
Oui, sans doute, mais oui. Mais après, vous savez, à dire les choses... Quand je travaillais directement à l'ANA sur les subventions, bon, je pense que tout le monde connaît l'Agence nationale de l'habitat, donc qui donne des subventions, on a à l'ANA une catégorie qu'on appelle propriétaire occupant très social. Il arrive parfois que les gens croient annoncer une bonne nouvelle en disant « Ah ben vous êtes dans la catégorie des propriétaires occupants très sociaux », tout content de lui dire finalement qu'il va avoir une subvention plus importante. Et la personne en face le vit aussi très mal. Donc, vous voyez, je ne sais pas si... je ne suis pas plus à l'aise et plus respectueuse de la personne en lui disant je veux regarder ces questions de précarité énergétique avec vous plutôt que de lui renvoyer aussi l'image peut-être de la réalité de sa pauvreté. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà mon sentiment en tous les cas. Je ne suis pas si mal à l'aise que ça avec le terme précarité, même si c'est vrai qu'on parle de pauvreté. Sur le découpage... là, ça nous emmène très loin. Je pense qu'on a aussi tout un chemin à faire pour sortir des champs des compétences de chacun, de la vision. Je ne parle que de ce que je connais, ce sur quoi on me reconnaît. Donc, c'est vrai que sur les politiques publiques, il y a des grands débats en ce moment sur qui fait quoi. Je regarde la dame du Conseil général. On en est encore là, quoi. C'est vrai qu'on en est encore là. Sur le thème de la précarité énergétique, on est en train de travailler en Deux-Sèvres avec une communauté de communes. On commence à regarder un petit peu, pour avoir une politique de l'habitat, sur quel segment on peut agir. Quand on fait la liste des partenaires potentiels, alors partenaires, c'est pas forcément financier, c'est des bonnes idées, c'est de l'ingénierie, c'est de la formation, c'est plein de choses. C'est assez impressionnant, c'est vrai. Il y a des spécialistes de plein de choses, des gens parfois qui n'ont pas envie de se parler parce qu'ils estiment qu'ils se montent sur les doigts de pied les uns des autres. On a à progresser. C'est notre capacité à avoir une démarche de projet globale. Mais bon.
Alors profitons de cet échange. Si d'autres intervenants qui ne sont pas censés intervenir tout de suite voulaient réagir ou apporter votre pierre à l'édifice ou non ?
Votre brique
isolante. Bon, on va demander à Benoît Gouraud de bien vouloir venir nous rejoindre. Voilà. Merci Christine. Alors méfiez-vous, parce que tout à l'heure, il a passé ses photos de vacances. Il s'est trompé de dossier. Ah bon, d'accord, ok. Benoît Gouraud, présentez-vous s'il vous plaît, pour commencer.
Donc je suis chargé d'études énergie au sein de l'AREC, l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat. Donc nous sommes une agence qui travaille surtout dans l'observation. Donc nous observons, nous avons différents observatoires, des observatoires pour la biomasse, des observatoires. Je suis en train de faire.
Prenez votre temps, on va y aller tranquillement. Voilà.
Donc des observatoires pour la biomasse, des observatoires pour les déchets et un observatoire pour les émissions de gaz à effet de serre, dont je fais partie. Et nous avons en ce qui concerne la précarité énergétique, nous avons une mission d'identification des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, Madame Berthollet vous a présenté tout à l'heure le fait que la plupart de ces ménages-là étaient propriétaires de maisons individuelles. C'est le résultat de toute l'étude de l'ANA qui est indispensable, en fait, avant de lancer toute action contre la précarité énergétique. Il est impensable de lancer une action si on ne sait pas vers qui on doit agir. Quelles sont les cibles de cette action-là? Donc ce sera tout notre travail, là, c'est tout notre travail pour l'équipe dans laquelle je travaille. C'est identifier les logements, les ménages sur le territoire, sur la région Poitou-Charentes, qui peuvent être en précarité énergétique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord la méthode que nous avons adoptée. Ensuite, nous allons voir que notre région est particulièrement exposée à la précarité énergétique, car la plupart des logements correspondent aux caractéristiques qui vous ont été présentées dans la présentation précédente. Et enfin, nous allons nous attarder un petit peu plus sur les ménages de retraités, car ces retraités correspondent, selon l'ANA, correspondent à 55% des logements qui sont en situation de précarité énergétique.
Donc, et donc, vous parlez bien de précarité énergétique également.
Aujourd'hui, le thème était précarité énergétique, mais en l'occurrence, ce serait plus juste de parler de vulnérabilité énergétique. Si ça peut, vous me poserez la question tout à l'heure, si vous voulez.
Non, mais je sais pas pourquoi encore une vulnérabilité énergétique serait mieux.
C'est mieux parce que précarité énergétique, en fait, une définition a été posée. Il faut que la part de dépenses énergétiques sur le revenu disponible dépasse les 10%. C'est quelque chose qui est très figé. Pour moi, c'est un critère qui est vraiment trop strict. En termes de vulnérabilité énergétique, on va prendre des personnes qui sont aujourd'hui en précarité énergétique, mais qui sont également, qui seront peut-être demain en situation de précarité énergétique. Elles ne le sont pas forcément aujourd'hui, mais elles sont tout aussi vulnérables. Pour le terme pauvreté, c'est un terme qui effectivement est aujourd'hui considéré comme péjoratif. Donc effectivement, quand on s'adresse à ces personnes-là, je pense qu'il est beaucoup plus positif de les nommer comme des personnes en situation de précarité énergétique. Et ensuite, le terme pauvreté est assez difficile à définir. Je suppose que vous êtes au courant de...
Le problème, c'est que les gens, en fait, à mon avis, la plupart des pauvres à qui vous avez parlé de précarité ne vont pas comprendre de quoi il s'agit.
Mais ils ne sont pas forcément pauvres non plus. Je pense que ce n'est pas non plus... Enfin, si on considère que leur bien immobilier est un bien qui...
Si vous parlez de précarité, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire.
Je suis d'accord.
Alors, est-ce que l'idée, c'est d'avoir des mots que les gens ne peuvent pas comprendre pour mieux communiquer avec eux? C'est bien possible.
Alors c'est un autre débat.
Voilà, on verra ensuite qu'effectivement il y a tout un accompagnement à avoir auprès de ces personnes-là. Donc on peut aussi leur proposer une fiche vocabulaire, hein, si c'est une solution. Non, mais
l'idée c'est de lutter contre les euphémismes, c'est tout.
Oui, et moi je suis pour lutter contre les chocs aussi. Enfin, je pense que quelqu'un, les gens, on ne doit pas les choquer non plus.
Christine, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y, défendez-vous.
Je suis pour agir. Je comprends votre débat, c'est vrai que c'est intéressant. En revanche, ce que vous avez suggéré, c'est très important. L'idée de la vulnérabilité, et c'est vrai que là aussi, on est dans peut-être quelque chose qu'il faudrait encore, sur lequel il faudrait insister. On va regarder ce qui se passe mal aujourd'hui, et on n'est pas en capacité de se mettre en prospective et de se dire... Là où c'est fragile aujourd'hui, demain, qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Moi, j'aime bien cette question de la vulnérabilité parce qu'elle prend en compte cet aspect-là. C'est vrai que dans nos politiques,
Très bien, Benoît, vous avez marqué des points. On vous écoute.
Donc, voilà, je vais commencer par le premier point, les différentes, la méthode que nous avons utilisée. Donc, pour identifier ces ménages-là, d'abord, il faut revenir à la définition de précarité énergétique. Donc, nous l'avons vu, une facture énergétique sur le revenu disponible qui est supérieur à 10%. Ensuite, nous avons, au départ, quand nous avons commencé, nous avons pensé à deux approches possibles. La première, c'est directement d'aller chercher dans les différents organismes, dans les différents fonds d'aide, quelles étaient les personnes qui bénéficiaient de ces fonds d'aide. Donc, par exemple, aller voir le FSL et demander la liste des personnes qui étaient touchées par le FSL. Toutefois, les différents problèmes que nous avons avec ça, c'est le premier, toutes ces aides ne sont pas octroyées à des gens qui utilisent des moyens de chauffage comme le bois, comme le propane, qui sont pourtant des moyens de chauffage qui sont fortement utilisés dans les milieux ruraux, chez des gens qui ont leur maison individuelle et qui ont des systèmes de chauffage très anciens. Donc en allant vers tous ces fonds-là, on loupe pas mal de personnes. De plus, quelqu'un qui va vers le FSL pour lui demander de l'aide, c'est quelqu'un qui n'est... Enfin, les retraités, par exemple, ne vont pas souvent demander de l'aide parce qu'ils ne sont pas au courant de tout le système d'aide qui existe. Donc, se concentrer uniquement sur ces gens-là, sur les gens qui sont bénéficiaires d'aide, c'est une méthode qui ne nous paraissait pas complète. Donc, nous avons agi à partir du recensement de la population, c'est-à-dire que le recensement nous fournit un panel très exhaustif du logement dans lequel les gens vivent. Donc, ça nous donne la surface, le système de chauffage, le nombre de personnes qui vivent dans le logement, l'année de construction du logement. Donc, ce sont des données qui sont très intéressantes et qui nous permettent ensuite de déterminer une consommation du logement. Et ensuite, nous croisons cela avec le niveau de revenu du logement, que nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement. Ce sont des données qui sont détenues notamment par l'INSEE, mais qui sont secrets statistiques. Donc, c'est très dur d'avoir des données dans là-dedans. Toutefois, on arrive à croiser avec certains indicateurs de revenus afin de déterminer quelles sont les communes qui ont le plus de logements en situation de vulnérabilité énergétique. Donc, aujourd'hui, la région est particulièrement exposée à la précarité énergétique, puisque si on reprend les chiffres de l'étude qui a été présentée par Christine tout à l'heure, nous avons la majorité des personnes qui sont en situation de précarité énergétique qui sont propriétaires, qui possèdent une maison individuelle, qui sont âgées et qui vivent dans un milieu rural. Ce qui sont des caractéristiques fortement dominantes dans l'habitat régional. Par exemple, si on prend uniquement les propriétaires occupants, les propriétaires occupants qui sont retraités, qui habitent une maison individuelle construite avant 1975 et localisée dans un milieu rural, on touche près de 120 000 logements, ce qui correspond à plus de 15% des résidences principales. Donc, on voit que la région est une région qui correspond aux caractéristiques avancées par l'ANA. Donc, la problématique de la précarité énergétique est une problématique qui est tout à fait d'actualité et encore plus dans notre région. Donc, maintenant, nous allons faire un zoom sur les retraités, car nous avons travaillé sur l'identification des retraités en situation de vulnérabilité énergétique ces dernières semaines. Donc là, on va vous présenter les différents résultats. Tout d'abord, la méthodologie que nous avons appliquée, comme je vous ai présenté tout à l'heure, on a utilisé le recensement de la population qui nous a permis de déterminer les consommations énergétiques de chaque logement de retraité. Donc là, sur cette cartographie, comme on raisonne par commune, je vous ai fait une moyenne par commune. Donc en bleu clair, nous avons des logements qui consomment à l'année moins de 2 TEP par an. Et en bleu foncé, voire noir, nous avons des logements qui consomment énormément d'énergie. Donc là, on a énergie de chauffage plus toutes les énergies annexes, donc l'électricité spécifique, le chauffage de l'eau. etc. Par contre, le transport n'est pas pris en compte encore.
J'ai une petite idée, mais vous nous rappelez ce que c'est que l'ANTEP ?
Les tonnes équivalent pétrole. Nous avons estimé qu'un picto charentais utilise aujourd'hui dans son logement 0,80 TEP par an. D'accord ? Donc par logement, quand on fait une moyenne sur les retraités, on est dans ces eaux-là. Ensuite, nous avons croisé cette donnée-là de consommation énergétique avec les revenus moyens des retraités par commune. Donc là, on commence à se dire, les communes qui sont en noir vont être celles qui seront les plus en situation de précarité énergétique. Donc nous avons croisé, on a superposé ces deux cartes-là, ce qui nous a donné une carte particulièrement intéressante, qui est la suivante. C'est une carte qui vous montre quelles sont les communes dans lesquelles la part des retraités précaires dans la population des retraités est la plus importante. Donc par exemple, si on prend cette commune-là, on aura par exemple 50% des retraités qui sont en situation de précarité énergétique. Ce qui est très intéressant car lorsque nous allons cibler une action, par exemple imaginons un CG qui veut s'occuper de la précarité énergétique, il saura qu'en allant sur ces communes-là, il aura au moins 30% en ciblant sur les retraités, s'il en touche 3, il aura forcément touché un retraité qui était dans une situation de précarité énergétique.
Alors, dit comme ça, c'est impressionnant.
Effectivement, puisque ça permet vraiment de cibler l'action et de cibler l'action.
Ça m'a échappé ou pas ? Là, on est d'accord, par exemple, si ces personnes se chauffent au bois, elles ne rentrent pas dans cette catégorie.
Non, justement, nous avons fait une étude qui prend en compte le bois. D'ailleurs, cette carte-là correspond à peu près à la proportion des logements qui se chauffent au bois. D'accord ? Si je vous montrais la carte de la part des logements qui utilisent le bois comme énergie de chauffage, on se rendrait compte que c'est ici qu'il y a la plus grande part de logements qui se chauffent au bois, ici. Là aussi, ici, c'est un territoire qui est caractérisé par l'utilisation du fioul, principalement.
D'accord.
Voilà. Ensuite, donc là, c'est une carte qui permet, qui est intéressante pour les CG, par exemple, savoir quelles sont les communes dans lesquelles, en touchant les retraités, on touchera le plus de personnes précaires. J'aurais pu vous faire aussi la cartographie, quels sont les logements quelles sont les communes dans lesquelles il y a le plus de logements précaires, mais celle-là, elle n'est pas très intéressante, car dans cette commune-là, par exemple, il y a peut-être 10 retraités.
Ah oui, donc,
on va toucher, par exemple, en agissant, on sait qu'on en touchera. On touchera 10 retraités, certes, mais à Poitiers, par exemple, on aura peut-être 40, 50 retraités qui sont en situation de précarité énergétique, sauf qu'ils seront beaucoup plus difficiles à identifier.
D'accord.
Sur cette carte, nous avons ce que nous appelions le taux d'effort énergétique, c'est-à-dire la facture d'énergie divisée par le revenu par commune. Donc là, c'est une moyenne. Et on se rend compte que les communes qui sont noires, là, ont une moyenne de taux d'effort énergétique qui est très supérieure à la définition de précarité énergétique. Donc ce sont des cartographies qui sont vraiment toutes à croiser entre elles, parce que tout dépend de l'action que nous voulons avoir. Si on veut agir sur les retraités en masse, par exemple, il faudra peut-être plus agir sur les grandes agglomérations. Le problème, c'est qu'on aura du mal à les identifier. Par contre, si on veut être sûr de toucher les gens qui sont précaires, on ira plus sur une commune qui est dans laquelle la part des précaires est grande. Voilà. Donc, les retraités, c'est vraiment une population sur laquelle il faut se pencher aujourd'hui, car ils habitent en grande majorité un logement ancien, antérieur à 75. Ils possèdent des appareils de production, comme je l'ai dit, qui sont plutôt vétustes, qui fonctionnent au bois-bûche ou au fioul, qui datent d'avant 80, donc qui vont devoir être changés très prochainement. Ensuite, ces retraités possèdent des ressources financières limitées, ils sont peu enclins à effectuer des travaux, parce que en fait, ils ne voient pas la nécessité, puisqu'ils ont toujours vécu de la sorte. Donc, ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils vivent vraiment dans une situation qui n'est pas celle de Monsieur Tout-le-Monde. Le coût des travaux est très cher et malheureusement, toutes les aides pour les travaux...
Notamment l'isolation, j'imagine. On pense notamment à l'isolation.
Exactement. Donc, pour faire tous ces travaux, on peut bénéficier des copréas à taux zéro. On peut bénéficier de pas mal d'aides, mais qui ne seront octroyées, les crédits d'impôt, par exemple. Il faut qu'on avance l'argent et on sera remboursé au bout de 18 mois. Donc, ce sont des aides auxquelles ces gens-là ne peuvent pas accéder. Ensuite, les gens, ils ont peur de lancer un travail d'isolation chez eux parce que où vont-ils habiter pendant l'isolation ? Ils ne connaissent pas les aides, comme j'ai dit précédemment, donc ils ne sont pas touchés par le FSL, par exemple. Et ils ne connaissent pas du tout ces travaux d'isolation. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Voilà, et donc, pour résumer tout ça, ils ont une très grande inertie. Ce sera très difficile de les faire bouger. Voilà, donc pour synthétiser les caractéristiques de ces logements des retraités en situation de précarité en situation de vulnérabilité énergétique, donc ça correspond à 50 000 logements de ce que nous avons évalué, soit 5,3% des logements de Poitou-Charentes. Donc ce sont des maisons anciennes occupées par des retraités qui vivent seuls la plupart du temps, qui sont propriétaires, qui ont une surface très grande. Une maison qui était familiale à l'époque et qui désormais n'est occupée que par une seule personne, mais qui est restée très grande. Une remarque là-dessus, souvent les gens ne rentrent même pas dans la définition de précarité énergétique, c'est-à-dire ils ne consomment pas plus de 10% de leurs revenus pour l'énergie, tout simplement parce qu'ils se restreignent beaucoup. Ils ne se chauffent pas à hauteur de... Enfin, ils vont avoir une maison chauffée peut-être à 15 degrés, afin de ne pas avoir une facture trop importante. Et ce sont des gens qui, comme le montre le graphique ci-dessous, se chauffent principalement au fioul et au bois. Au bois, c'est souvent le bois-bûche, d'accord. Voilà, donc tout ce travail-là que nous avons effectué, c'est un travail qui est effectué en amont pour arriver à cibler les gens qui seront les cibles de nos actions, et actions que j'espère nous allons réussir à trouver. Il y a un gros débat qui va devoir être fait pour trouver les actions qui seront les plus efficaces et actions qui devront être ciblées pour ces populations que nous essayons d'identifier.
Voilà. Merci Benoît. Oui. Allez, alors la bavarde. Dans quelles conditions ?
Les sanitaires adaptés, d'habiter, plus à l'étage. Il y a en plus ces questions de confort,
prise en compte sociale.
Ça fera l'affaire.
C'est vrai que sur la population âgée, c'est d'autant plus difficile.
Oui. D'où l'importance d'avoir des assistantes sociales, une assistance sociale pour aller.
Ça, c'est évidemment,
c'est indispensable.
Faire qu'avec le travail social.
Exactement.
Sur les chiffres que nous avons, je vais parler d'une petite communauté de communes, on a 27 communes, on a 5100 résidences principales, on a à peu près 1400 résidences principales qui n'ont ni chauffage central ni chauffage électrique.
Donc ça, 20%.
On est vraiment, on s'est bien vu là dans la carte. C'est bon, les couleurs correspondent.
Très bien.
Ça va, ouf. Sauvé. D'autres interventions ? Brigitte Humel, vous allez intervenir tout à l'heure, mais juste par rapport à ce qu'on disait, les personnes âgées ne font pas enfin, partie de ces personnes qui font des démarches facilement pour les FSL, alors ? Vous nous le confirmez ?
Oui, parce que pour faire une démarche auprès du FSL, il faut souvent faire une démarche auprès d'une assistante sociale. Donc, on a le problème, effectivement, des personnes âgées, je viens de le dire, enfin, vous l'aviez d'ailleurs dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a les blocages psychologiques, mais il y a aussi l'accessibilité, c'est-à-dire comment se rendre à la maison départementale de la solidarité ou au centre communal d'action sociale. Ce sont aussi souvent des gens qui n'ont pas ce réflexe et cette habitude. Cela étant, dans les maisons départementales de la solidarité de la Vienne, les travailleurs sociaux observent quand même l'arrivée quand même de nouvelles populations. C'est-à-dire que jusqu'à une date encore relativement récente, ils avaient surtout affaire à des familles. De plus en plus, le public des maisons départementales de solidarité, mais c'est pareil dans les centres sociaux, se diversifie. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens seuls, ou des personnes seules avec des enfants, et de plus en plus aussi de personnes, de travailleurs modestes, et de plus en plus de personnes retraitées. C'est quand même une caractéristique des dernières années. Donc, si les personnes retraitées vont voir un travailleur social, le dossier de demande d'aide au FSL est enclenché. Je veux dire, quand un travailleur social voit qu'il y a un impayé d'énergie ou un impayé de loyer, un dossier social est constitué.
D'accord.
Une demande d'aide est constituée.
D'accord, on y reviendra plus longuement tout à l'heure. Benoît, vous le mentionniez, donc on parlait du Conseil général. Je crois que vous avez pas mal d'interlocuteurs, donc à qui ça va servir tout ça ?
Alors, on est à nous tous. Non, nous sommes, par exemple, il y a le Conseil général de la Charente qui est en train de lancer justement une opération auprès de 100 logements. Auprès de 100 logements qui seront identifiés en situation de précarité énergétique. Leur objectif, c'est justement d'arriver à les sortir de cette situation de précarité énergétique. Non pas, comme l'a dit Madame Berthollet juste avant, non pas de leur fournir des aides pour essayer de penser la plaie. C'est vraiment travailler à la source. Ça va être des travaux d'isolation pour leur logement. Donc voilà, ça va servir, par exemple, dans ce cas-là, nous pouvons leur dire dans telle commune, vous aurez, il y a plus de 50% des retraités qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, il est de votre devoir d'aller vers cette population-là. Ensuite, pour la région, ce sera aussi très important de voir à qui attribuer des aides, par exemple, pour lancer des aides aux travaux, aux travaux de réhabilitation des logements. Ça permet de cibler la population, d'accord, cibler les logements également, puisque on a, comme on le voit sur ce transparent-là, on a les caractéristiques du logement.
D'accord.
Est-ce qu'il y aura un contrôle sur les aides qui sont données, de façon à être sûr que l'investissement qui soit engagé soit fait correctement, dans une démarche cohérente et globale correcte, et qui ne soit pas, vu qu'aujourd'hui l'énergie est quand même une filière qui semble être une niche économique,
oui,
pour de nombreux techniciens, commerciaux, enfin surtout commerciaux d'ailleurs. Donc comment protéger ces gens-là qui sont déjà vulnérables énergétiquement, vulnérables techniquement, et vulnérables dans un commerce à tout va où il faut rendre, quel que soit le retour sur investissement que feront les gens derrière.
Donc,
même si parfois, il n'y en a pas du tout.
Alors, je sais pas si Benoît...
Par exemple, ne pas mettre un panneau photovoltaïque sur une telle maison, par exemple. D'abord, travailler sur l'isolation, sur la réhabilitation du logement, qui est une véritable passoire énergétique. Oui, tout à fait. Ben, j'espère que que ceux qui auront la responsabilité d'attribuer des aides à ces personnes-là prendront en compte tous ces aspects-là.
Et après, dans cet espoir-là, est-ce que les choses qui seront mises en place seront réellement durables ? Est-ce qu'on ne partira pas vers du polystyrène à tout va ou vers de la laine de verre à tout va, alors qu'on sait que le produit est dangereux, que le polystyrène n'apporte pas de...
Tous les dossiers d'aide devront être instruits par des ingénieurs, par des, par des gens qui connaissent la problématique, autant la problématique sociale que la problématique technique. Donc ça répond aux deux questions, à mon avis. C'est vérifier que ce que font aujourd'hui les ingénieurs de l'ADEME, par exemple, vérifier qu'une subvention va être attribuée à un dossier qui s'inscrit dans un cadre environnemental.
On va avoir l'occasion d'en parler. Oui.
Chaudière qui peut être vétuste, je suis pas sûre que ce soit la priorité.
Ouais, après, voilà, il faut qu'il y ait des...
Mais qui arbitrera le bon sens, puisqu'aujourd'hui, de ce que l'on voit sur le terrain, d'avoir un bilan énergétique d'une maison pour savoir que le retour sur investissement d'une isolation de toiture sera toujours plus intéressant que le retour sur investissement de la mise en place d'une pompe à chaleur. Comme vous dites, c'est du bon sens. Bon, moi, aujourd'hui, c'est mon métier, donc je le vois au quotidien. Justement, le bon sens, il n'existe plus dans notre société où on se base sur l'apparence. C'est toujours plus excitant de montrer une pompe à chaleur que de montrer qu'on a rajouté 3 cm.
Là, en fait, moi, je me projette sur une action qu'on essaye de mener avec les collectivités, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs qui peuvent être des opas, des choses comme ça, des dispositifs d'accompagnement. Bah, c'est lors du bouclage du dispositif avoir les compétences nécessaires et puis les ambitions très clairement affichées et les précautions qui sont prises.
Si c'est possible, c'est parfait.
Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire et c'est ce qui a été fait d'ailleurs déjà. Mais après, vous ne vous empêcherez pas
la croissance verte.
C'est pas tendance.
Alors juste avant de demander à Samuel Ardon de venir nous rejoindre, comme on est entre nous, je vais vous raconter 2 secondes de ma vie parce que tout ce qu'on a entendu, ça me parle. 2 secondes, j'ai dit. Hein. C'est que non, j'ai la chance d'habiter une maison des castors de 1953. Et quand je suis arrivé, les héritiers qui m'ont vendu la maison m'ont fait remarquer que les parents avaient tardé. Alors moi, j'étais tout content parce qu'ils les avaient obligés, mais sur la fin de leur vie, à changer toutes les huisseries. Et moi, quand je suis arrivé, toutes les fenêtres étaient impeccables et nickel. Mais sauf qu'ils nous ont expliqué que pendant des années, ces pauvres... Il y a des endroits, les fenêtres, on mettait le petit doigt, l'air frais rentrait. Enfin, ils ne voulaient pas investir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand j'ai vu que le cumulus, il faisait 90 litres d'eau chaude, je me suis dit comment ils faisaient les pauvres. Mais bon, on n'avait peut-être pas un petit peu les mêmes habitudes. Et juste pour rebondir, et après j'arrête de raconter ma vie, lorsque j'ai voulu rénover un petit peu cette maison, je suis tombé sur un professionnel de l'isolation qui m'a dit, mais vous imaginez pas le nombre de fois où des gens veulent des panneaux photovoltaïques et compagnie. Moi, je leur fais comprendre d'entrée de jeu qu'il faut peut-être commencer par isoler la maison. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, ce n'est pas toujours évident.
Chaleur et photovoltaïque, donc ça c'est complètement aberrant. On a oublié le bon sens.
Voilà, Marc Tricot, il ronge son frein depuis tout à l'heure, il va nous expliquer tout ça à la fin. Merci beaucoup Benoît. Samuel Ardon de l'ADEME, s'il vous plaît. Bonsoir, qui êtes-vous Samuel? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Bonsoir, donc Samuel Ardon, ADEME. Je travaille donc au secteur énergie à l'ADEME et plus spécifiquement en fait sur le département de la Vienne. Donc mon intervention va s'axer en trois parties. Je vais vous présenter en fait donc le rôle de l'ADEME dans face à la précarité énergétique, parce qu'on va parler de précarité énergétique.
Ah bah vous assumez alors, c'est bien.
Je vais assumer. Pourquoi déjà l'ADEME intervient, est concernée par la précarité énergétique. Et puis je vais terminer en fait par des opérations en fait régionales qui ont été mises en place. Et j'en profiterai pour faire participer un petit peu la salle, parce qu'il y a des acteurs, des protagonistes de ces opérations-là qui sont présents. Donc juste une diapo, pourquoi l'ADEME intervient face à la précarité énergétique. Parce que c'est vrai qu'une des missions premières, c'est plutôt d'intervenir contre la lutte contre le changement climatique. Donc un petit rappel, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, juste pour rappeler. Donc il y a le paquet climat, énergie climat, qui a été acté par les 27 pays états membres en fait de l'Union européenne, qui donc décline en fait les objectifs à l'horizon 2020, à savoir la règle des 3-20, donc 20% d'économie d'énergie, énergie primaire. On ne va pas rentrer dans le détail sur cette notion-là. 20% d'énergie renouvelable et 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc avec une déclinaison en fait pour la France, qui est de 20% d'économie d'énergie, 23% d'énergie renouvelable et 14% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Donc, premier objectif, donc, aspect maîtrise de l'énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un petit point sur le secteur bâtiment en France. En France, le secteur du bâtiment, c'est 30 millions de logements. Donc, c'est un stock actif de logements, du réduit du logement, un siècle à peu près. Le flux, c'est 300 000 logements par an. Donc, pour renouveler en fait le parc de logements, il va falloir quand même pas mal de temps. Donc, il y a un gros travail à faire sur le parc de logements existant. D'ailleurs, la moyenne nationale sur le parc existant est de 260 kWh par mètre carré et par an en termes de consommation d'énergie. L'objectif de 2020, il est de passer à 160 kWh par mètre carré, ce qui correspond à une réduction de 38%. Et en 2050, passer à 50 kWh par mètre carré et par an. Donc, on voit bien qu'on a un parc de logements en fait existant qui est très consommateur en énergie, donc un gros travail à faire dessus. Et pour mémoire, en fait, on avait vu qu'il y avait 3% des ménages français qui étaient en situation de précarité énergétique. Donc, il y a un petit graphe que j'aime bien qui montre justement donc le rôle de l'ADEME. Donc, c'est le premier cercle en fait sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Mais quand on juxtapose en fait deux autres composantes, à savoir donc le revenu des ménages. Et puis le prix de l'énergie, qui est une notion, on peut dire, fluctuante, donc très liée en fait à l'augmentation du prix des énergies fossiles. Donc on arrive à un dénominateur commun, donc qui est au centre des trois cercles, qui est la lutte contre la précarité énergétique. Donc on voit bien, déjà que cette problématique va toucher différents acteurs, donc nous sur la partie efficacité énergétique, et puis tous les acteurs de l'action sociale. Donc je crois que pour lutter contre la précarité énergétique, c'est vraiment avant tout un jeu d'acteurs à mettre autour de la table. On parlait des 13% des ménages français également en situation de précarité énergétique. Alors, on peut parler maintenant de vulnérabilité. Les 13% effectivement sont connus. Le prix de l'énergie augmentant, il y a toute une tranche de la population qui va se retrouver en précarité énergétique. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant au niveau du rôle de l'ADEME. Alors, au niveau du rôle de l'ADEME, niveau national, donc il y a un rôle de formation, d'information par rapport à la précarité énergétique. Alors qu'est-ce qui s'est mis en place? Il y a eu des modules de formation qui ont été mis en place en fait pour les travailleurs sociaux. Donc notamment il y a eu 34 sessions de formation qui ont été mises en place entre 2000 et 2009, qui ont permis de former en fait 450 conseillères en économie sociale et familiale sur la région, au niveau national. Et il y a eu deux stages qui ont été faits au niveau régional. Il y a également un deuxième module, pardon, je vais un petit peu trop vite. Il y a un deuxième module en fait qui a été élaboré donc en 2007, un module de 2 jours pour les assistants sociaux. Donc c'est un module en fait qui peut être déployé localement sur simple demande en fait. Il suffit qu'on puisse organiser ça au niveau régional. Donc ça c'est des choses qui peuvent se faire beaucoup plus localement. Donc ça veut dire qu'effectivement que les acteurs soient partants par rapport à ça, mais c'est des choses qui peuvent se faire très rapidement. Faire communiquer l'information. Donc l'ADEME en fait participe au sein des diverses délégations régionales à des opérations en lien avec les acteurs sociaux. Donc toute cette expertise-là est remontée au niveau national, qui a, on va dire, aggloméré tout ce niveau d'expertise dans un guide. Donc un guide qui s'appelle Comment mettre en place un fonds social d'aide aux travaux de maîtrise de l'énergie. Donc c'est un guide qui présente 76 fiches. Qui reprend les bonnes pratiques au niveau national qui ont été identifiées. Alors, c'est loin d'être un guide exhaustif, hein, certainement complétable, qui apporte des éléments sur des fiches d'un point de vue social, d'un point de vue technique, d'un point de vue financier. Donc, ce guide, je l'ai emmené avec moi, donc je pourrais vous le faire circuler, vu qu'on est presque en famille. Y a pas
énormément. Et le dédicacer ? Non, pas du tout.
Pas du tout. Donc, ce guide est également consultable à la direction régionale de l'ADEME, et il est également, les gens peuvent se le procurer. Par ailleurs, on a parlé tout à l'heure également du programme EPE, donc, qui est l'étude pour la précarité énergétique en Europe. Donc l'ADEME a participé à ce programme européen donc, qui concernait en fait 5 pays européens. Donc ce programme est terminé en 2009 et les issues en fait soldées par un colloque avec l'édition également de 2 guides, un guide plus européen et un guide en fait plus local. Qui a été mise en place donc, pour aider les collectivités locales à mettre en place un programme de lutte contre la précarité énergétique. Donc, c'est un guide qui reprend 13 fiches. Il y en a une notamment qui n'a pas été choisie innocemment, qui est favorisée l'auto-réhabilitation. Donc, c'était par rapport à l'intervention de tout à l'heure de Marc. Donc, j'ai également ce guide à disposition et il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'ADEME. Alors, je vais vous montrer après sur le site de l'ADEME. Il y a une sorte de bibliothèque où vous pourrez trouver les éléments. Connaître et fédérer, donc deuxième rôle au niveau de l'ADEME. Donc à l'issue du travail du groupe de pilotage national en fait, sur la précarité énergétique, il y a un certain nombre de choses qui sont présagées, et notamment la mise en place d'un observatoire national pour mieux identifier en fait, la problématique de la précarité énergétique. Alors que ce soit à la fois sur la partie bâtiment, mais vous avez bien insisté tout à l'heure, c'est aussi sur la partie transport, de créer un centre ressources au niveau national, et de pouvoir diffuser les bonnes pratiques. Alors cet observatoire national a pour vocation d'être mis en place courant 2010, en espérant qu'il n'y ait pas de retard, mais normalement, deuxième semestre 2010, cet observatoire devrait être créé. Par ailleurs, il y a appui à diverses expérimentations, notamment il y a eu un programme de recherche qui a été financé avec des opérations pilotes, avec le PREBAT, qui est le programme de recherche par rapport au bâtiment. Il y a eu un appel à projet, 20 opérations ont postulé à cet appel à projet et il y a eu un accompagnement d'1,7 million par rapport à ces 20 opérations. Donc toute la liste également sera diffusable sur le site de l'ADEME. Et par ailleurs, il y a également un réseau qui a été constitué. Alors, je rejoins monsieur, c'est le réseau Rappel, qui est le réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement et qui regroupe en fait 120 acteurs de la dimension sociale. C'est un réseau en fait où chacun peut adhérer. Il y a un site internet qui est là en fait pour échanger par rapport aux bonnes pratiques, pour diffuser l'information et pour mettre en relation l'ensemble des personnes, pour éviter de réinventer ce qui peut se faire, pour trouver des bonnes idées. Donc c'est le réseau Rappel qui a son site internet dédié. Donc orienter, donc une aussi des missions de l'ADEME au niveau national, donc c'est la contribution dans le cadre du plan national de rénovation thermique qui a été défini en fait toujours par rapport au groupe de travail, dont l'objectif en fait est la réhabilitation entre 2010 et 2017 de 300 000 logements. Donc c'est définir un petit peu cette orientation-là, sachant qu'il va y avoir en fait un financement pour la réhabilitation thermique de ces 300 000 logements qui va s'appuyer en fait sur 3 financements. Il va y avoir le grand emprunt à hauteur de 500 millions d'euros. Il va y avoir également les fournisseurs d'énergie et puis l'ANA en partenariat avec l'ADEME. Et enfin, expertise auprès des ministères pour l'adaptation des outils financiers. Alors, ce n'est pas encore, on va dire, complètement défini, mais il y a des orientations, des pistes pour adapter les outils financiers qui existent déjà, qui sont également très nombreux. On peut citer l'éco-PTZ, c'est-à-dire le prêt à taux zéro. On peut citer le crédit d'impôt. Alors, c'est des mécanismes qui sont bien pour des ménages qui ont la faculté de pouvoir y accéder. Mais c'est vrai que pour le crédit d'impôt, il faut faire l'avance. Donc, il y a des réflexions par rapport à trouver un fonds de compensation pour éviter, en fait, que les particuliers, enfin, que les personnes en difficulté puissent avancer l'argent. Donc, il y a différentes choses qui sont en cours de route. Il y a également les certificats d'économie d'énergie qui est une obligation, en fait, fournie aux fournisseurs d'énergie pour faire des économies d'énergie, en fait, dans, on va dire, pour les habitations, notamment dans ce cadre-là. Une bonification est en cours pour que ces certificats d'économie d'énergie par rapport à la précarité énergétique soient valorisables. Donc, il y a un système de quotas, des réflexions qui sont en cours par rapport à ça. Donc, je vais arrêter sur la partie intervention au niveau national. Et pour mémoire, donc, le site de l'ADEME, alors pas très intuitif, mais il faut donc...
Ça va venir.
ADEME.fr, vous allez sur la rubrique bâtiment, précarité, et là, vous retrouverez un certain nombre de documents qui sont en place. Donc, des reports d'études, les documents téléchargeables et un certain nombre de choses. Je vais maintenant vous présenter quelques opérations régionales, donc qui vont être au nombre de 4. Donc, la première, en fait, c'est une opération qui est un partenariat qui avait été avec la CAF de la Vienne. Alors, pour les citer, c'est dommage qu'ils aient pas pu être là parce que c'est des gens, en fait, qui travaillent sur la thématique de la précarité énergétique depuis une vingtaine d'années, même plus que ça, avec deux assistantes sociales donc, qui sont en place et spécialisées sur la thématique de l'énergie. Donc, ce programme, en fait, a émané, en fait, d'une des assistantes sociales qui, face à la précarité énergétique, donc, avait besoin d'outils pour sensibiliser. Et donc, on s'est retrouvé autour de la table avec le Secours catholique pour voir ce qu'on pouvait faire. Et suite à nos réflexions, en fait, un livret a été créé, un livret de 32 pages, une exposition également de 10 panneaux que vous pouvez voir autour de vous. Donc, cette exposition qui est là. Donc, deux jeux, en fait, ont été faits. Il y a eu un jeu qui est disponible à l'ADEME et qui est donc utilisable par réservation. Et il y a un deuxième jeu, en fait, d'exposition qui est au sein de la CAF, qui, elle, a, on va dire, une personne en fait pour faire l'animation en fait sur le département de la Vienne via cet outil là et donc il faisait des séances d'animation dans des salles des fêtes destinées vraiment à des publics en précarité avec accompagnement par rapport au guide et qui tournait en fait dans tout le département pour présenter ça. Alors avant de vous parler des deux autres en fait ou trois autres expériences qui résultent, je suis obligé de vous parler du réseau des espaces information énergie. Donc, c'est un réseau, on va dire déjà national au départ, qui a été créé en 2000. Donc, c'est un réseau, en fait, de conseillers énergie qui a été mis en place sur le territoire français dans le cadre d'un programme, en fait, le PNA2E, Plan National d'Amélioration de l'Efficacité Énergétique, en 2000, parce qu'il partait d'un constat qu'il y avait peu de personnes, en fait, enfin, c'est-à-dire que les particuliers étaient effectivement sollicités par beaucoup de démarches commerciales et avaient peu de repères, justement, pour s'orienter et pour faire les bons choix. Donc, ce réseau, c'est un réseau indépendant de conseillers énergie qui a été mis en place, qui ne vend rien, qui apporte un conseil gratuit auprès de la population. Et donc, c'est une des réponses. Alors, effectivement, ils ne sont pas très nombreux. Enfin, au niveau national, c'est 400 conseillers. Sur la région Poitou-Charentes, on a 14 conseillers pour 12 espaces information énergie. Donc, c'est des conseillers énergie qui viennent également en appui et qui ont été, on va dire, sollicités pour faire des actions face à la précarité énergétique pour sensibiliser. Donc, une des opérations qui a été faite, donc, c'est du côté Châtellerault, avec l'espace information énergie du CPIE Seuil du Poitou, et la CCAS de la ville de Châtellerault, la CAF de la Vienne également, donc trois partenaires par rapport au projet. Donc, ça se passe en fait dans une épicerie sociale de Châteauneuf, où la démarche a été de mettre en place l'exposition que vous voyez là, accompagnée de maquettes, pendant une semaine, avec l'animation en fait d'un conseiller énergie autour de cette exposition. Donc le conseiller a également lancé un petit jeu en fait pour prendre des repères par rapport à l'aspect maîtrise de l'énergie et notamment classer les consommations énergétiques d'appareils électroménagers. Ça s'est également soldé par la remise de thermomètres, de passage d'informations et également la vente dans l'épicerie sociale de lampes basse consommation à 10 centimes d'euros. Donc c'est une opération qui a à peu près mobilisé 400 personnes pendant cette semaine-là. Donc ça, c'est la première opération qui s'est passée à Châtellerault. Une deuxième opération, en fait, sur le Montmorillonnais, où là, en fait, ça va être un petit peu plus récurrent. C'est des ateliers, en fait, sur la précarité énergétique. Donc suite à la demande, en fait, d'une assistante sociale du pôle logement de Montmorillon, donc qui a contacté l'espace information énergie de Vienne Habitat. Alors c'est vrai que Vienne Habitat est une double structure, ils hébergent un espace information énergie. Ils font également partie du réseau des Pactarim, qui sont très présents en fait sur la thématique de la précarité énergétique et instructeurs des dossiers à ANA également. Donc c'est un travail en fait sous forme d'atelier, où là une quinzaine de personnes en fait se réunissent pour aborder différentes thématiques. Donc le conseiller énergie intervient pour expliquer ce qu'est la précarité énergétique, sensibiliser les personnes par rapport à la maîtrise de l'énergie et apporter un certain nombre de solutions. Donc les personnes cibles en fait c'est des propriétaires bailleurs. Il y a des propriétaires bailleurs qui se trouvent en fait à l'intérieur de ces ateliers, mêlés en fait avec des propriétaires occupants et très peu de locataires en fait. Et enfin, la dernière opération dont je voulais vous parler, en fait, qui se trouve sur le secteur de Parthenay. Donc, c'est une démarche, en fait. C'est une opération qui est émanée d'une volonté individuelle, qui est une travailleuse sociale, en fait, qui a fait la formation ADEME. Et suite à cette formation, en fait, elle a voulu aller un petit peu plus loin et elle ne savait pas trop comment procéder. Donc, elle a mis autour de la table différents acteurs pour voir comment il était possible d'agir. Donc l'espace information énergie du CRER, je vais faire un petit signe à Sabrina qui est présente parce que c'est elle justement la protagoniste en fait de cette opération. Donc le principe a été de repérer en fait et d'identifier les familles qui étaient en grande difficulté énergétique et de voir ce qu'il était possible de faire. Donc dans une première phase, donc diffusion d'informations sur la partie maîtrise de l'énergie. Et Sabrina, donc après, c'est sur les 7 familles qui ont été identifiées, s'est rendue en fait chez les familles pour faire un diagnostic énergétique, pour apporter des solutions adaptées, donc c'est-à-dire par rapport au budget, justement, pas prévoir des systèmes de photovoltaïque, enfin, des solutions vraiment adaptées par rapport à la problématique, a fait un rapport d'étude, a remis ce rapport d'étude là, et après c'était en phase de recherche de financement. Alors la difficulté, effectivement, c'est de trouver les financements. Idoine pour pouvoir financer les opérations. Alors je sais que là je vais me retourner un petit peu vers Sabrina par rapport à ça parce que je sais qu'un certain nombre d'opérations ont pu obtenir des financements et être concrétisées avec notamment des financements de la MSA. Donc peut-être que tu peux en dire plus Sabrina sur cet aspect-là.
Mais on imagine que la démarche a été acceptée, en tout cas, a été la bienvenue par rapport aux personnes que vous avez rencontrées.
Ce sont les familles qui sont volontaires.
Ah oui, d'accord, ok.
Il n'y a pas d'obligation, c'est la famille qui rentre dans une démarche avec le conseil général. Il n'y a pas d'obligation.
D'accord.
La plupart des opérations.
Toutes ces histoires-là, il y a aussi des histoires d'hommes et de femmes, je vais trouver, qui partent. Voilà. Là, on a un petit peu fonctionné. Souvent, on se retrouve à organiser un financement et ce qui nous manque, c'est le travailleur social qui doit porter le truc. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à rencontrer ce genre de situation. Là, on a eu l'inverse.
Celui-là, je vous assure, il a été le résultat
d'un long travail de réflexion.
Je ne sais pas si on peut appeler ça la réflexion, mais d'un long travail.
Oui.
C'était le terme qui ne fâchait personne. Voilà, donc, alors, vous voyez, madame le conseil général de la Vienne qui est prononcé, bah, oui, on a un conseil général en Bruxelles qui intervient très peu, uniquement. Alors, toutefois, c'était sur le plan d'insertion, que pour quelques pérennistes dans certaines circonstances. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont là, mais je ne suis pas forcément obligée de poser la question.
Monsieur au fond.
Quelques problèmes sociaux à régler avant, qui ont fonctionné aussi avec, avec les familles. Donc, c'est assez difficile aussi de travailler sur cette thématique-là. Donc, aujourd'hui, il y a eu 8 études qui ont été rendues, 8 rapports, et on a à peu près la moitié des familles qui ont passé à l'acte ou dans le cas parce qu'on a trouvé le financement. Donc, c'est des travaux essentiellement d'isolation. En premier, donc isolation de toiture, isolation des murs, pas encore parce que c'est des investissements qui sont assez lourds et là forcément on ne trouve pas le financement, c'est trop, trop important. Donc c'est isolation et changement du système de chauffage parce qu'on est sur des systèmes de plus de 35-40 ans, j'en ai entretenu, donc là il y a des risques très importants pour la famille. On est sur un petit territoire et on va avec le... Il y a un facteur temps qui est très important.
Et puis, faut regarder au-delà, parce que cette dame-là, qui s'appelle Mme Bustin, on peut dire son nom.
Je ne sais pas, Mme Bustin.
ce qu'elle a fait là, ça va servir
ouais.
Là, quoi.
Mmh.
Parce que, voilà, nous, on partait d'un endroit, sur un territoire, avec des idées de gens qui travaillent. On a croisé cette dame et puis et son expérience et son regard et son approche, parce que c'est compliqué aussi, hein, on parlait de chacun à sa vision, on parlait des mots, c'est assez compliqué de faire fonctionner tout le monde ensemble. Typiquement, le problème qu'on peut rencontrer nous, c'est monsieur qui l'évoquait, pour avoir les noms, enfin les adresses, le FSL et tout. Alors nous, le gros problème qu'on a avec le travailleur social, c'est son foutu secret. Ah oui, mais non, mais ça, bon, qui se comprend complètement du côté du travail social. Mais pour avancer sur autre chose, eh ben, ça devient... Donc il y a toute une démarche à avoir pour chacun, pour arriver à se comprendre, à partager les objectifs, à prendre... être obligé d'abandonner certains trucs parce qu'on se rend compte qu'il y a un autre enjeu qui va passer devant. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ce qu'elle a fait, même si c'est que 8, ben, elle a une expérience qui pour nous vaut de l'or.
Mmh.
Et parce qu'elle a des clés qu'avec nos discours de gentils petits fonctionnaires d'État, eh ben, on n'a pas. Voilà. Donc elle est déjà quelque part associée à autre chose sur le territoire. Et on savait qu'elle avait fait la formation. Bon, ben, pour nous, c'est aussi l'occasion d'éventuellement d'étendre cette formation-là à d'autres. Donc, il n'y a pas de petit expérience. Enfin, c'est
on a compris. Samuel, ne m'en veuillez pas, je suis aussi le maître du temps. Vos guides, vous nous les laissez à la fin. Enfin, pour ceux qui seront intéressés, on pourra. Ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'on a encore deux intervenants passionnants? Brigitte Hummel, depuis le temps qu'on parle de vous, vous allez pouvoir venir vous défendre du côté du Conseil général de la Vienne. Je vous taquine, venez nous rejoindre. Et après, Marc Tricot. Mettez. Ah, bah, il n'y a pas de PowerPoint. Vous venez là, vous êtes la bienvenue. On va ouvrir votre micro, c'est formidable.
Donc je me présente, Brigitte Hummel, je suis directrice des politiques d'insertion au Conseil général de la Vienne. depuis 2 ans. Bon, alors moi, je vais plutôt vous donner des chiffres. On a parlé de pauvreté, de précarité, de vulnérabilité. Donc, dans ma direction... D'habitat dégradé.
Merci, monsieur.
Nous, on parle de population, ça dépend. Dans un rapport, on mettra les populations fragilisées, etc. Bon. Enfin, notre préoccupation sont les crédits, surtout. Avant de vous parler des impayés d'énergie, puisqu'en fait, c'est la thématique, juste un mot pour vous dire que dans ma direction, donc dans la direction de l'insertion, c'est là qu'on gère le RSA, l'ex-RMI devenu RSA. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas de PowerPoint, parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour en préparer. Hein.
Vous êtes à fond sur le RSA en ce moment.
On s'arrache les cheveux. Bonsoir, monsieur Luneau, vous n'avez pas vu. On s'arrache les cheveux pour financer ce RSA. Alors, non pas parce que le dispositif du RSA en tant que tel est un dispositif coûteux, mais tout simplement parce qu'effectivement, les effets de la crise conduisent à de plus en plus de pauvreté ou de précarité. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tous les cas, ça se traduit par des budgets allocations qui sont exponentiels. Et pour tous les départements, hein, je crois que ce n'est pas propre à la Vienne, on a évidemment une grosse difficulté pour boucler nos budgets insertion. Voilà. Donc les impayés d'énergie, c'est une toute petite part de mon budget. Mais c'est quelque chose d'important. Et puis, alors, ce que je voudrais dire aussi, avant de rentrer dans les chiffres des impayés d'énergie et du FSL, hein, le FSL, c'est le Fonds Solidarité Logement, c'est dire que, de toute façon, tout ça sont des vases communicants. Quand on a une famille qui est en situation, qui cumule des difficultés, pour ne plus dire pauvreté précaire, quand on a une famille qui cumule des difficultés, de toute façon, ça n'a pas un impayé d'énergie. On va la retrouver ailleurs avec un impayé de loyer. On va la retrouver qui va demander des secours au cabinet du président du Conseil général. Donc, bon, voilà. On a de toute façon des populations qui doivent se débrouiller avec quelques centaines d'euros par mois. Et puis, avec ça, bah, on sait que le loyer et les charges, ça va représenter une part importante des ressources, alors même si ces ressources ne sont composées que d'allocations. Et malheureusement, pour les familles les plus précaires, eh bien, le loyer et l'énergie, ou en tous les cas les charges globalement, atteignent souvent 50, voire plus de 50% des ressources du ménage. Alors, dans ces cas-là, effectivement, il est difficile, par exemple, d'envisager des travaux, forcément. Voilà. Alors, donc, je vais maintenant me recentrer un petit peu sur mon sujet. Donc, le FSL, je n'étais pas encore au département quand les FSL se sont créés. Donc, je ne peux pas vous donner la date de création. Mais en tous les cas, ils ont été rattachés au département en 1998 avec la loi relative à la lutte contre les exclusions. Et c'est en 1998 que les aides du FSL se sont élargies pour prendre en compte les impayés d'énergie, les impayés d'eau et aussi de téléphone. Dans la Vienne, le téléphone, on n'a pas encore mis en place, mais on est en train de changer le règlement du FSL et en principe, on devrait intégrer cette notion aussi de téléphone. Alors, petite parenthèse, hein, dans la population de bénéficiaires du RSA, chercher du travail... sans pouvoir se déplacer. Hein. La dame dont j'ai oublié le nom tout à l'heure parlait des problèmes de déplacement ou sans téléphone, bah, c'est pas évident quand même. Voilà, alors bon, quelques chiffres pour illustrer quand même ces impayés d'énergie dans la Vienne. Donc le FSL, juste encore un mot, donc le FSL, c'est l'outil financier en fait du département pour tout ce qui est accompagnement des personnes dans la problématique de leur logement. Donc forcément, un public, le logement des personnes défavorisées. Donc le FSL intervient pour les impayés d'énergie, mais aussi pour les impayés de loyer. Il intervient pour ce qu'on appelle l'accès au logement. Donc ça va être aider des gens à intégrer un logement en prenant en charge, par exemple, une partie des frais de déménagement, payant l'ouverture des compteurs, etc. Et puis, tout un pan aussi du FSL qui permet de financer ce qu'on appelle l'ASLL, c'est-à-dire l'accompagnement social lié au logement, qui sont des mesures d'accompagnement. Donc, en fait, c'est du travail hein, d'assistante sociale ou je cherche toujours le nom des économes. Les conseillères en économie familiale, voilà. Et donc, les mesures ASLL, en fait, ça permet de financer des structures qui vont proposer un accompagnement de ces personnes. Donc un accompagnement soit pour intégrer un logement, quand ces personnes viennent d'un hébergement, par exemple, ou pour les accompagner pour se maintenir dans leur logement, justement, quand des familles ne savent pas, enfin, je le mets vraiment entre guillemets, parce que gérer un loyer de quelques centaines d'euros, bon, c'est souvent de la haute voltige, donc les accompagner pour essayer de gérer les quelques centaines d'euros et faire en sorte qu'effectivement le loyer et les autres charges soient payées. Alors dans la Vienne, je vais vous donner les statistiques de 2009, puisqu'on a une année complète maintenant. Dans la Vienne, au FSL, on a eu 4000 demandes, donc 4000 dossiers qui ont été déposés au FSL pour à des impayés d'énergie en 2009. Et évidemment, les 4 premiers mois de l'année qu'on se représente la moitié des demandes, puisqu'on est sur les mois d'hiver, donc avec des grosses factures que les gens ne peuvent pas payer. Et sur les 4000 dossiers, 52%, c'est-à-dire 2073 très exactement, dossiers ont pu être aidés. Donc c'est un tout petit peu plus que la moitié. Et je dois vous dire que c'est très difficile, très tendu avec les travailleurs sociaux qui nous transmettent des dossiers, enfin qui transmettent des dossiers au FSL quand ils savent qu'un dossier sur deux va être refusé. On reviendra après sur les motifs des refus si vous le voulez. En tous les cas, sur les 2073 dossiers qui ont pu bénéficier donc d'une aide, on a 805 dossiers qui relèvent donc du secteur public et 1268 du secteur privé. Donc en pourcentage, ça fait 61% des dossiers donc, qui viennent du secteur privé. On voyait tout à l'heure que les problèmes d'énergie, on les retrouve en milieu rural et dans des logements anciens et dans le parc privé. Donc vous voyez qu'on a un plus fort pourcentage dans le privé que dans le public. Cependant, il y a plus de 50% des aides. J'ai pas les stats là juste sous les yeux, mais on a, je suis sûre, 50 voire plus des aides qui sont concentrées sur les deux agglomérations. Alors là, effectivement, c'est l'effet présence ou de la MDS, donc de la Maison départementale de la solidarité, ou des CCAS, Poitiers, Châtellerault. Et bon, là, à ce moment-là, c'est le poids aussi des bailleurs publics, forcément. Hein. Alors, au total, on a accordé un peu plus de 400 000 euros. Je vais vous faire grâce des euros et des centimes d'euros. Donc, on est à un peu plus de 400 000 euros d'aide en tout, avec quasiment presque tout sous forme de subvention. Hein. 95% des aides sont sous forme de subvention et 5% des aides sont sous forme de prêts. Voilà, le taux moyen de l'aide, c'est 195 euros. On a des aides qui vont de 50 euros à 1500 euros. Les personnes qui peuvent bénéficier de ces aides, alors, on a un certain nombre de critères qui permettent d'octroyer automatiquement une aide. Mais on a aussi beaucoup de dossiers pour lesquels il y a un recours est fait et qui sont après étudiés dans la globalité. Alors, je m'explique, par exemple, si la famille a un QF inférieur à 650 euros et si c'est la première fois qu'elle demande une aide, l'aide sera automatiquement accordée, à condition justement que ça se situe entre 50 et 1500 euros. Mais pour des personnes qui auraient un QF supérieur, bon, il y aura dans un premier temps un refus dit administratif, entre guillemets, mais un recours peut être fait. Et à ce moment-là, c'est la situation globale de la famille qui va être prise en compte. Donc là, c'est une commission qui se réunit et qui va étudier l'ensemble des données du dossier. Il y aura un dossier social. Un dossier social aura été fait par un travailleur social. Donc on aura d'autres éléments d'appréciation sur la famille. Il peut y avoir eu des accidents de la vie, comme on dit quelquefois joliment. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Hein, le QF il est calculé sur l'année N-1, il peut y avoir eu un changement dans l'année, etc. Donc à ce moment-là, toutes ces autres données sont prises en compte. Voilà ce que je peux vous donner en chiffres. Alors, je vous disais que ce n'est qu'une partie quand même du reflet de cette pauvreté, de précarité, vulnérabilité ou fragilité, comme on veut. Le budget du FSL en arrondi, hein, c'est un peu plus de 2 millions d'euros. On a donc, vous le voyez, un tout petit peu plus de 400 000 euros qui est réservé donc aux impayés d'énergie. Mais on a aussi 650 000 euros pour l'accès et le maintien dans le logement. Donc, quand je parle de maintien dans le logement, là, c'est sur les impayés d'énergie. Bon, l'accès, c'est donc pour faciliter l'arrivée d'un ménage dans un logement. Et on a 450 000 euros d'aide, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc de l'accompagnement social lié au logement. Voilà. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que dans les commissions énergie du FSL, qui ont lieu toutes les semaines, on retrouve la CAF, la MSA, l'UDAF, des travailleurs sociaux. Dans la commission accès et maintien, on va retrouver aussi les bailleurs sociaux. Et moi, je sais qu'avant de travailler dans le social, je ne pensais pas du tout que ça se passait comme ça. Ce qui m'a beaucoup surprise et en même temps étonnée, parce qu'on disait tout à l'heure qu'on travaille souvent de manière cloisonnée. Et c'est vrai, on a encore beaucoup de progrès à faire, ça c'est clair. Mais moi, je le vois dans les commissions d'impayés d'énergie ou maintien accès au logement, dans les réunions qui peuvent se tenir en préfecture, les commissions de médiation, la commission d'ALO, donc pour le droit opposable au logement. Mais la médiation, c'est là se gèrent aussi toutes les problématiques d'impayés d'énergie et donc souvent qui doivent se traduire aussi par retrouver un logement avec un loyer moins élevé, etc. Eh bien, on retrouve vraiment tous les acteurs du logement social autour de la table. Moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois, c'est le nombre de personnes mobilisées qui sont présentes toutes les semaines dans ces commissions et qui font vraiment un vrai travail. Alors, un vrai travail de partenariat pour arriver à solutionner les situations. Et je vais juste vous donner, alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on a toujours en gestation... Enfin, en fond de dossier, on a toujours plus de 500 dossiers, hein, entre plus de 450 sur environ 500 dossiers sur les problématiques d'impayés d'énergie et donc de risques d'expulsion. Avant l'expulsion, il y a le commandement quitter les lieux, etc. Donc, on a toutes ces étapes-là et avant le recours à la force publique et l'expulsion proprement dite avec le recours à la force publique. Bien, ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On a donc, allez, grosso modo, 500 dossiers toujours, en gestation, hein, en permanence. Certains sont résolus, donc d'autres rentrent, etc. Et on a que, alors, pardonnez-moi de dire ça, mais on n'a que 20 expulsions avec recours à la force publique par an dans la Vienne. Donc, évidemment, vous allez me dire que c'est 20 trop. Mmh. Bon, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand même, ça montre tout ce travail qui est fait par les travailleurs sociaux, par les bailleurs sociaux, parce que les bailleurs sociaux, ils aussi, qui ne font pas d'efforts, etc. Moi, je ne le dis plus. Les bailleurs sociaux, ils font beaucoup d'efforts. Enfin, ils logent beaucoup de personnes qui sont en situation, en tous les cas, en grande difficulté. Ils font des travaux pour rénover les logements. Quand il faut accueillir un ménage dont on sait qu'il a été expulsé ou qu'il va être expulsé, donc il faut essayer de trouver une solution avant l'expulsion, ce sont les bailleurs entre eux, bon, ils se les refilent entre guillemets, hein, mais ils trouvent des solutions quand même. Donc il y a quand même un très très gros travail qui est fait pour essayer d'apporter des solutions à ces familles en grande difficulté. Alors on a parlé un tout petit peu, enfin vous avez parlé de prévention. Je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on aurait vraiment beaucoup d'efforts à faire. Il faudrait vraiment beaucoup progresser effectivement sur la prévention. Dans le cadre du FSL, on est obligé d'en faire un petit peu, je dis obligé entre guillemets aussi, parce qu'il y a certains partenaires financiers comme EDF par exemple qui accordent une aide, je crois que c'est 200 000 euros à condition qu'une part, je crois que c'est 20 000 euros aussi, soit réservé à des actions de prévention. Alors c'est clair qu'il faudrait faire beaucoup plus de prévention. Cependant, on est bien obligé de dire qu'on est tous, toutes les collectivités locales, en tous les cas, dans des situations de financières difficiles. Et que moi, je le vois bien pour le social au département, que ce soit dans les aides à l'enfance, que ce soit dans les aides pour les personnes âgées handicapées ou que ce soit pour les aides à l'insertion, on sait très bien que la prévention, on ne va pas en avoir les résultats et les fruits tout de suite. Et qu'en ce moment, moi, je suis en train de chercher entre 6 et 8 millions à inscrire au budget en DM, donc en budget supplémentaire au budget primitif, pour faire face à la hausse de l'allocation RSA. Mes collègues qui travaillent dans le domaine des personnes âgées handicapées ont des hausses beaucoup moins importantes, mais ont quand même des hausses aussi, avec des budgets à inscrire en cours d'année, à l'enfance aussi. Et forcément que ça va être notre priorité. Et que les actions de prévention, on est tous convaincus qu'il faut les conduire, mais on n'aura pas de résultats immédiats. Moi, mon budget du FSL, c'est sûr que l'année prochaine, en 2011, il va exploser. Nous, on s'attend dans la Vienne à peu près entre 3000 et 3500 personnes qui vont arriver en fin de droit à CEDIC. Donc nous, en tant que dans ma direction, on aura entre 800 et 900, et on sera sans doute plus près de 900 allocataires du RSA en plus de tous ceux qu'on a récupérés depuis plus d'un an. Parce que ça, c'est en hausse tous les mois. Donc, mais là, on va avoir un pic là, entre maintenant et l'automne. On va se prendre à peu près 800 à 900 allocataires de plus. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 bénéficiaires du RSA de plus, donc vous voyez, moi j'en ai parlé de 800-900, hein. 100 de plus, s'ils rentrent dans le dispositif ce qu'on appelle au RSA SOC, c'est-à-dire l'ancien RMI, ils ne travaillent pas du tout. S'ils y restent un an, alors ils ne vont pas tous rentrer un an au RSA SOC, mais si on en prend 100 qui rentrent dans le dispositif au RSA SOC et s'ils y restent 12 mois, ça coûte au département 500 000 euros. Donc je vous laisse faire la multiplication si on en a 800 ou 900 de plus, là, entre avril et novembre. Voilà. Alors, c'est pour ça que les actions de prévention, comme elles ne vont pas avoir un effet immédiat, le présent et le futur 2011, ça va être de trouver l'argent pour payer le RSA et pour payer les impayés d'énergie et les impayés de loyer, qui sont les conséquences directes de la grande pauvreté, précarité, vulnérabilité. Là, moi, je dois dire que j'ai plus beaucoup de temps pour choisir les termes.
Bon, bah dites donc. Non, on apprend plein de choses.
Il y avait celui-là que j'avais pas beaucoup de temps pour préparer.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous laisse pas de glace, bien sûr. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des demandes de précision à Brigitte Hummel sur ce qui a été évoqué, présenté?
Quel secteur de la Vienne est plus touché actuellement par rapport à ces demandes? Plus le bassin Châtel-Rodet.
Alors évidemment, le bassin Châtel-Rodet. Le bassin Châtel-Rodet. Plus touché.
Puis c'est peut-être pas fini.
Sachant qu'on a quand même des zones rurales qui sont encore évidemment en grande difficulté, hein, toutes les franges du département, le sud Vienne, le Loup du Nez, sont quand même des territoires déjà très fragiles. Mais là, effectivement, le Châtel-Rodet est particulièrement touché. Alors, quand même un mot sur les actions de prévention. On sait bien aussi que, par exemple, dans le Châtel-Rodet, on a beaucoup, beaucoup de populations étrangères. Bon, je regardais tout à l'heure vos panneaux. C'est vrai qu'il y aurait des actions de prévention à conduire auprès des populations africaines en particulier. Des personnes qui arrivent d'Afrique, qui se retrouvent dans des logements avec... D'abord, moins on a d'argent, plus on a un logement à bas loyer. Donc, on va se retrouver soit dans le privé, effectivement, soit dans des HLM bas de gamme, donc les plus vieux, donc forcément les moins bien isolés, etc. Donc une population africaine qui va arriver, alors on en a, je parle des Africains parce que je fais le lien avec le Châtel-Rodet, une famille africaine qui va arriver, il n'y a pas que les Africains, dans un logement HLM pas du tout isolé avec des radiateurs électriques, c'est sûr que là il y a un travail de prévention à faire. Expliquer qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres au-dessus des radiateurs électriques allumés, etc. Bon. En même temps, surchauffer les appartements, moi je séjourne tous les ans, je vais tous les ans en Afrique. Quand on arrive de pays où on a entre 30 et 50 degrés toute l'année, voilà, leur demander de chauffer à 19, c'est un petit peu dur. Hein. Voilà, donc il y a tout un travail à faire auprès de ces populations. Alors il y a des associations qui font un travail remarquable sur le terrain. Je pense aux associations, à l'association Viva, par exemple, qu'on va certainement nous subventionner cette année. Mais il y a des gens qui font du travail sur le terrain. Alors il y a des travailleurs sociaux qui prennent des initiatives. Le CCAS de Châtellerault, par exemple, il y a quelques années, avait distribué, je crois, gratuitement des ampoules à basse consommation. Il y aurait plein de choses à faire. Alors le réseau des épiceries solidaires, nous on subventionne les épiceries solidaires dans le cadre de nos actions d'accompagnement, hein, d'insertion sociale. Et moi j'entendais donc tout à l'heure qu'il y a eu une action de conduite dans une épicerie solidaire. Moi je trouve ça très intéressant. Il faut effectivement, alors nous les épiceries solidaires, on les subventionne pas seulement parce que ça permet de donner un colis alimentaire aux personnes en difficulté, mais ça permet aussi de faire des actions de sensibilisation dans le domaine de la santé. C'est aussi pour ça que nous on y est présent, mais c'est vrai que ça peut aussi être un moyen de conforter tout ce qui est prévention dans le domaine énergétique, quoi. C'est intéressant.
Moi, j'aurais quelques remarques à faire. Oui. Comme l'Assemblée est assez consensuelle, je vais me permettre d'un tout petit...
Allez-y, monsieur.
La première chose, c'est de dire quand même que par rapport à... Le FSL est né avec la loi Besson, qui, si je me souviens bien, c'est une loi qui est sortie en mai 90.
Oui, en tous les cas, c'est antérieur à 98, ouais. Donc, c'est le transfert donc, au département.
Bon, par rapport au début du FSL dans la Vienne, il me semble qu'on régresse un peu. C'est-à-dire que quand le plan départemental pour le logement des défavorisés a été mis en place dans la Vienne, il y avait tout un souffle pour produire des logements d'insertion, pour développer un nouveau type d'habitat pour des gens à la marge, par exemple. Enfin, il y a eu vraiment un souffle. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est revenu dans la gestion de la précarité. C'est-à-dire que l'espoir s'est atténué, s'est diminué, et on en est rendu à parler d'épicerie sociale, qui me paraît tout à fait honorable. Hein. Je ne critique pas du tout, mais d'ailleurs, ça permet de développer du lien social entre les gens. Donc, ça a une fonction aussi en termes de...
Et d'avoir une couverture départementale.
Mais quand même, quand je vous entends, j'entends bah, finalement les ambitions de départ, on ne les retrouve plus tout à fait aujourd'hui. En tout cas, dans ce que vous me dites, je ne les retrouve pas tout à fait. Et puis, alors, il y a aussi qu'à un moment, j'ai envie de dire, tous ces problèmes de précarité, de difficultés, de vulnérabilité, d'accidents de la vie, de fragilité. Je veux dire, il faudrait peut-être aussi interroger les phénomènes, les mécanismes macro-sociaux, quoi. C'est-à-dire, dans une société qui produit tellement d'exclusion, est-ce que c'est, enfin, la prévention, d'accord, vous avez complètement raison, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est la hauteur des enjeux de cette montée de l'exclusion. Robert Castel dit que finalement la France a accepté bon an mal an que 5-6 millions de personnes soient dans la pauvreté. C'est ce que dit Castel. En fait, c'est quelque chose d'admis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes comme le problème du logement. Parce que finalement, on n'est pas prêt à partager l'espace social. C'est aussi simple. Enfin, c'est peut-être, en tout cas, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, moi, il y a des choses qui m'inquiètent terriblement. C'est par exemple la montée du nombre d'hébergements sociaux. Savez-vous que depuis 10-15 ans, on est passé de 30 000 places d'hébergement social à 100 000 places d'hébergement social. Alors vous allez me dire, c'est parfait, l'hébergement social, ça permet aux gens de ne pas mourir dans la rue. Mais ça, en même temps, à la fois que ça sert aux gens à ne pas mourir dans la rue, ça aussi, ça fait paravent par rapport à la montée du droit au logement. C'est-à-dire qu'en fait, à des gens qui demandent un logement, on répond par une proposition d'hébergement dans un CHRS, dans une association. Et en fait, quelque part, on n'entend pas aussi ce... Enfin, on ne répond pas en proposant de l'hébergement, on ne reconnaît pas le droit au logement en tant que tel. Hein. Donc, alors, la dernière chose qui m'inquiète un peu, c'est la montée de tous ces acteurs qui gèrent la pauvreté. Et tout à l'heure, alors moi, l'ADEME, je connaissais, mais il y a des organismes que je ne connaissais pas. Hein. Franchement.
Eh ben, vous avez bien fait de venir.
Oui, non, mais je suis très content. Oui. Bon, il y avait l'ADEME, il y a la REC, l'ANA. L'ANA, je connaissais. Hein. Mais, bon, on voit alors un paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, au niveau de l'insertion, alors, les sociologues disent que l'insertion, c'est de plus en plus. Les acteurs de l'insertion sont soumis de plus en plus à l'impuissance. Ils n'ont pas les clés d'insertion par rapport aux populations auprès de qui ils travaillent. Ils n'ont pas les clés d'insertion. Enfin, les clés d'intégration, il faudrait dire. Parce que ce mot insertion est aussi problématique. Mais à la fois, on assiste à un phénomène où les acteurs de l'insertion, les institutions, sont de plus en plus impuissants à assurer l'intégration des populations à la marge. Et en même temps, ces institutions se multiplient. Et la place du discours dans ces institutions devient de plus en plus importante. Vous comprenez, c'est-à-dire que, comme le dit, alors je vais être très, je vois que vous n'arrivez pas trop à comprendre où je veux en venir, ben je vais vous le dire. Gérard Mauger, qui est un sociologue, dit que l'insertion sert au moins à insérer les inséreurs.
Vous me permettez de vous répondre ?
Ah ben absolument.
Bon,
et puis après, on a Marc Tricot, hein, on aura une dizaine de minutes, je vous laisse conclure.
Rapidement, chacun son boulot, moi je ne vais pas faire de la macro-sociologie, et puis je ne vais pas de toute façon pas résoudre les problèmes de la mondialisation, etc. Ça serait un autre débat. Mais c'est peut-être le débat de fond, mais bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait des gens à la rue? Qu'est-ce qu'on fait des gens sans travail? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, leur impayer leurs énergies, etc. Bon. Donc,
le fait d'aborder le débat de fond, ça empêche d'agir.
Non, mais simplement, on n'a pas le temps.
On peut pas poser les deux.
Enfin, moi, j'en ai pas le temps, mais les gens qui peuvent y réfléchir, pas de problème. Hein. Mais sur le nombre d'hébergements, c'est vrai que dans la Vienne, par exemple, alors moi, je n'ai pas du tout les chiffres en tête, c'est dommage, parce que j'avais tout ça, et si ça vous intéresse, je pourrais vous les transmettre. Mais on a eu, beaucoup d'hébergements, de places d'hébergement qui se sont créées dans la Vienne. Bon, alors là, le nombre, je ne l'ai pas du tout en tête. C'est... Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces hébergements sont pleins. Donc, je ne peux pas vous laisser dire qu'on crée des places d'hébergement pour trouver une solution, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais définitive pour les personnes. C'est du flux permanent. Enfin, les gens rentrent en hébergement, quand les gens rentrent en hébergement, c'est une solution provisoire. Le but, là, c'est de les faire sortir de l'hébergement. Et quand je parlais tout à l'heure des mesures d'accompagnement social liées au logement, mais il y a évidemment d'autres dispositifs. Il y a aussi d'autres, entre l'hébergement pur et le logement, j'allais dire normal, c'est-à-dire comme on habite nous tous les uns les autres, il y a aussi des hébergements intermédiaires, c'est-à-dire par exemple des maisons relais avec des petits logements regroupés autour d'une salle commune, un éducateur ou un animateur qui va être là parce que ces logements ne sont occupés par des personnes qui ne sont pas encore capables, entre guillemets, en tous les cas en état, alors je ne parle pas financier, d'habiter seul un hébergement. Écoutez, je vous invite à venir sur le terrain et partager une journée avec un travailleur social. Hein. En tous les cas, il y a des gens qui, psychologiquement ou pour d'autres raisons, ne sont pas en mesure d'intégrer un logement. Alors après, l'étape d'après, c'est ils vont avoir un logement, mais ils vont encore être accompagnés. C'est-à-dire, ils vont être dans un logement, mais il y a une personne qui va venir les voir régulièrement. Et puis un jour, peut-être, ils sont enfin en mesure d'habiter leur logement. Alors,
je vous laisse
conclure. La tendance, c'est quand même d'essayer de fluidifier tout ça et de faire sortir les personnes de l'hébergement directement vers le logement quand c'est possible, avec des phases d'accompagnement ou des logements adaptés en parcours si c'est nécessaire. Mais le but, quand même, c'est de favoriser l'entrée dans le logement. Voilà, ça, c'est un premier point.
Alors attendez, juste une chose, pardonnez-moi, c'est vraiment très intéressant tout ce qu'on se dit là, sauf que le temps, on est vraiment en train de dévier, donc c'est pour ça, mais vous pouvez en discuter juste après, je vous laisse 2 minutes pour conclure si vous voulez bien Brigitte.
Alors sur l'accompagnement, c'est vrai qu'on peut donner l'impression de ne pas forcément être très efficace, qu'il y a de plus en plus d'acteurs, qu'on n'arrive pas à insérer les gens. Alors ça, c'est parce qu'on donne des chiffres liés effectivement au nombre de personnes, par exemple, bénéficiaires du RSA. C'est sûr que quand on est bénéficiaire du RSA Socle, on est vraiment fragile. Hein. C'est la dernière roue de secours, hein, le RSA. Mais quand même, il y a quand même un travail. Quand je parlais, j'ai cité tout à l'heure les chiffres des personnes menacées d'expulsion avec les expulsions au final. Pour parler, moi, de ce que je connais, mes équipes à moi qui sont sur le terrain, les équipes Bien Emploi Insertion, qui ne sont pas les travailleurs sociaux des maisons départementales de la solidarité, mais les équipes Bien Emploi Insertion ont, au cours de l'année 2009, accompagné environ 1000 personnes. Et on a abouti à plus de 900 contrats de travail signés. Alors certes, ils ne sont pas tous en contrat à durée indéterminée, mais il y a du CDI quand même, il y a du CDD, il y a des contrats aidés, il y a des contrats non aidés, il y a des contrats... Voilà. Donc il y a peut-être une multiplication d'acteurs, il y a certaines... Mais d'ailleurs, c'est ce que j'essaie, moi, de faire comprendre à mes élus. Ils pensent que les bénéficiaires du... Enfin, ils ne pensent pas tous, hein, mais on a souvent l'impression qu'ils pensent que les bénéficiaires du RMI ou du RSA, c'est un tas. Puis à chaque fois qu'on en sort un, le tas diminue. Ben non, les bénéficiaires du RMI ou du RSA, c'est du flux. Il y a des entrées et il y a des sorties. Et quand on a beaucoup de bénéficiaires, comme c'est le cas en ce moment, c'est qu'il y a plus d'entrées que de sorties. Mais il y a quand même, Dieu merci, des gens qui sortent. Sinon, ça serait effectivement... on serait dans une situation encore plus difficile.
Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes par respect pour Marc Tricot. Je vais vous demander de rester concentré encore un tout petit peu, un petit moment. Marc Tricot, artisan du solaire, merci Brigitte. Vous voulez que je fasse...
Allez, je vais faire le diaporama, allez-y, dites-moi tout. Vous êtes où là?
C'est là.
Je suis là?
Voilà.
Ok.
Donc, moi je vais vous emmener chez moi.
Ah bah oui.
Pour la première diapo, pour les suivants. Voilà. Vous montrez un peu ce que j'ai fait pour m'éviter la précarité énergétique.
Je ne suis pas très doué pour faire plein d'écran.
F5? Là, on arrive chez moi. Donc voilà ce que j'ai développé depuis environ 2002. Le système combiné solaire, qui est un chauffage solaire, voilà. Donc avec 24 mètres carrés de capteurs. Donc, pour accéder, je ne vais pas trop rentrer à la technique, hein, mais bon, voilà, simplement pour accéder au chauffage solaire, il est préférable d'avoir des émetteurs basse température. Donc cette maison n'était pas équipée, c'était une maison qui était neuve. Hein. Se stocker dans ces ballons. Voilà. Le chauffage solaire a aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année où ça coince, voilà, donc il faut faire de la pointe. Ici, la pointe, c'est une chaudière de bûche, voilà, qui travaille en hydroaccumulation sur le système combiné. Donc, bon, ça, ouais, voilà, donc bah, simplement, bon, le bilan énergétique là, actuellement avec ces énergies, on arrive entre 150 et 200 euros annuels, voilà, pour la maison. Aussi au photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, je vais en parler aussi. On parle de précarité. Moi, je vais parler aussi d'incohérence énergétique aujourd'hui. Je prends une installation qui coûte 15 000 euros, qui produit 1750 watts en crête. Voilà. Donc ce qui est rien du tout. 1750 watts en crête, on va dire, dans une journée comme là, comme on peut voir sur cette diapo, ça représente, on va dire, un dixième de ce que va consommer un radiateur électrique. Un peu ce rapport qu'il y a. Et actuellement, ce que je dénonce un peu, c'est qu'on met énormément l'accent sur le photovoltaïque. Et à mon goût, je pense qu'il y aurait d'autres priorités, c'est-à-dire améliorer les performances énergétiques de la maison. Pour moi, c'est une des priorités. Voilà. Donc il y a une incohérence énergétique. Donc si, par exemple, je prends simplement du solaire thermique, qui va me coûter trois fois moins cher que ça, me produire la même quantité d'énergie annuelle. Voilà, c'est, je dis aujourd'hui, je pense que s'il y avait des choses à faire, et si vraiment on avait une réelle volonté
à réduire les gaz à effet de serre, on irait en priorité sur l'amélioration des performances énergétiques, parce qu'en tant que professionnel aussi spécialisé en isolation, je vois des choses qui sont catastrophiques. J'arrive chez des gens qui pensent qu'il y a ce qu'il faut là-haut, et vous avez des pompes thermiques partout, voire absence totale d'isolation. Et depuis très longtemps, depuis que la maison existe, et ben voilà, ils payent. Et ça, je dirais, aujourd'hui, ça continue aussi. Sur une maison récente, sans du moins, il y a une semaine, j'ai une maison qui a 2 ans, et ben vous aviez des gros ponts thermiques, la laine de roche avait été balancée comme ça. Bon, voilà, ça, c'est un constat. Voilà, donc on va continuer. Voilà, donc ça, c'est l'onduleur qui permet de transformer. Alors, d'autres solutions aussi, le puits canadien. Donc, si on prend un puits canadien asservi à une VMC double flux dans une maison, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire partout. Mais c'est aussi un confort d'été, c'est aussi un apport d'énergie, on apporte au moins 20% d'énergie, c'est une vraie géothermie. La seule différence entre une géothermie type pompe à chaleur et ça, on va dire que là, la pointe peut être d'origine bois ou granulé de bois, etc., etc.
On est à combien en profondeur là ?
On est à 2 mètres.
2 mètres, d'accord.
Voilà. Donc confort d'été, hein, je vous dis aussi, voilà, bon, récupération des pluies. Soit la granulée hydro qui permet de rendre plus souple le fonctionnement de l'intersaison. Voilà. Et l'isolation. Donc ça, on a testé sur une de mes chambres, la chambre de mon fils, où l'année de la canicule dans cette chambre, en fin de journée à 18h, il faisait 36 degrés. Donc voilà. Parce que ça, c'est une maison récente, des années 2000, mais on peut considérer qu'elle est très, je dirais, énergétiquement, je la considère comme meilleure. Et pourtant, c'est une maison récente. Donc, c'est de la laine de verre. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que vous avez le rayonnement solaire qui se fait sur le mur. Donc, sur le côté où il y avait le... Ici, oui, sur ce pan de mur, ici, vous aviez... c'est le sud, voilà, ça donne côté sud. Et l'autre, c'est l'ouest. Donc, le rayonnement solaire se fait sur ce mur. Et au bout de 4-5 heures, vous avez le déphasage qui se fait. Et donc ça, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, vous avez très chaud dans cette maison. Et voilà, donc comme je dis, 2003, c'est aussi la résultante de ce type de maison en France, avec le 10 000 morts. C'est aussi une explication. Voilà, si on avait eu des maisons performantes avec des isolants comme Dawat Cellulose, qui ont une résistivité thermique beaucoup plus importante, on n'aurait pas eu ces phénomènes, je pense. Voilà.
On a fini ? Pardon.
Voilà.
Qu'est-ce que vous vouliez aborder encore, dites-moi tout.
Après, on avait... éventuellement, s'il me reste...
Il nous reste 5 minutes, il nous reste 5 minutes.
Donc, je vais parler un peu de ce que j'ai vécu au cours de...
Et de l'évolution, un petit peu, oui.
L'évolution, ouais. Ouais. C'est ça. Faire part un peu de mon ressenti de l'évolution ou de mon activité au cours des dernières années, en tant que professionnel. On va dire que les premières années, et puis après, je parlerai aussi un peu de mon expérience et comment j'envisage aussi l'avenir par rapport à tous ces problèmes là et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement.
Vous voulez pas venir vous asseoir à côté de moi?
Bon, oui, ça va.
Non, c'est comme vous voulez, oui, comme vous sentez.
Voilà, donc des chiffres aussi. Au début, quand je me suis installé, on était à peu près 8 artisans à faire du solaire. Réellement, sur l'annuaire, on était à peu près 8. Voilà. Aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si Samuel pourra peut-être répondre, mais je pense qu'on doit être plus de 90 ou quelque chose comme ça. Artisans qu'à lui seul, voilà. Donc ça s'est un peu, on va dire, démocratisé. Donc à l'époque aussi, il n'y avait pas le calibois, etc., etc. Donc il y a eu des formations, il y a quand même un peu un engouement là-dessus, une prise de conscience, surtout réchauffement climatique, voilà, etc. Et donc la première année, moi j'ai posé 5 chauffe-eau solaires, donc vous allez voir un peu la progression. La deuxième année, 15. Donc c'est vrai que la première année, quand je faisais les salons, on me regardait avec des yeux, on nous demandait ce que je présentais, si c'était un capteur, etc. Et c'était vraiment, les gens ne savaient pas exactement ce qu'était un chauffe-eau solaire. Mais bon, toute communication par l'ADEME, etc., on est arrivé à faire évoluer les choses. Voilà, deuxième année, 15, troisième année, 35, et la quatrième année, une cinquantaine, la cinquième année, 55, et en parallèle de la cinquième année, on arrivait à peu près à la période de la crise énergétique qu'on a connue avec un pétrole à 154 $. Et après, on a commencé à vivre le déclin. Donc derrière cette crise énergétique, je pense qu'il y a eu aussi le contre-coup, c'était la crise financière, on va dire. Voilà. Et là, maintenant, on est rentré dans le déclin. Donc je vous dis 50-40, et plus qu'une trentaine aujourd'hui. Donc bon, il y a d'autres explications, d'autres facteurs qui peuvent expliquer ça. J'étais aussi, on est mis en concurrence aujourd'hui avec d'autres sources d'énergie.
Plus,
ça a été la pompe à chaleur pendant longtemps, aujourd'hui c'est le photovoltaïque. Voilà, donc on a de plus en plus de mal à vendre. Et autrement, je le dis aussi au cours des 9 années d'activité, il y a eu une période où le solaire thermique était perçu aussi comme la solution, je dirais, à nos problèmes d'énergie. C'est-à-dire qu'à l'époque, les problèmes semblaient un peu... penser que simplement avec un chauffe-eau solaire, ça allait régler nos problèmes. Voilà. Donc ça, c'était plus, on va dire, une clientèle d'écologistes, de gens, je dirais, sensibles qui me faisaient travailler au départ. Mais suite à cette crise énergétique, là, je dirais, ça a été un peu, un déclic pour les gens, une inquiétude, etc., etc. Et j'étais passé à recevoir au moins 2-3 appels par jour avec des gens qui m'appelaient de façon à me demander rapidement d'apporter des solutions à leurs problématiques. Voilà, donc on a bien ressenti ça. Et j'ai même gardé les agendas de l'époque où il y avait énormément de rendez-vous, etc., etc. Mais ça, c'était au départ, quand on arrivait à pétrole à 154 $. On a bien senti un peu cette progression. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire en deuxième partie? Je dirais le scénario nous montre aussi que on relève un peu les défis de façon anarchique. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ce qui mène la danse, on va dire, c'est l'approche financière des entreprises. C'est les entreprises aussi. Bon, il y a des incitations, etc., et qui tentent de canaliser un peu ça et de mettre des garde-fous. Mais et ça ne suffit pas. Derrière, vous avez des lobbies, les lobbies du pétrole, les lobbies du gaz, de l'électricité, qui sont très puissants en matière de communication par rapport au bois. Donc vous avez des rapports de force. Donc si vous voulez, derrière, il y a des conditions alléchantes pour les artisans. Voilà. Pour un artisan, c'est bien plus intéressant d'aller placer une pompe à chaleur parce qu'il aura un bon 300 € d'avoir à Casto, par exemple, etc., etc. Ce que je n'aurais pas si je fais un chauffe-eau solaire. Si je vends un chauffe-eau solaire, je gagnerais beaucoup plus si je vends une pompe à chaleur. Hein? Donc, voilà. Et ce que je dis aujourd'hui, ce qui mène la danse, c'est un peu ça. Donc, je pense que ça, je considère que ça relève de la responsabilité de l'État de mettre des garde-fous et de freiner un peu le chien fou, je dirais, du commerce. Voilà. Et je pense que maintenant, je pense qu'on arrive à une étape, pour conclure, je dirais, où il y a quand même une prise de conscience. Parce que les gens ont vu un peu les contre-exemples avec les pompes à chaleur cet hiver, des gens qui ont eu froid, qui sont fait dégager leur système de chauffage, qui sont fait mettre des clims réversibles. Moi, j'ai des gens comme ça qui m'appellent. Voilà. Donc ça, c'est peut-être de la future précarité énergétique, parce qu'on a fait des erreurs de stratégie. Et de mon point de vue, je dis aujourd'hui, les gens commencent quand même à prendre conscience que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça commence un peu, clairement, maintenant, je dirais, à rentrer un petit peu dans les mœurs, mais il y a eu du mal de fait. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la conclusion.
Est-ce qu'il y a une ou deux petites questions pour Marc? On en fait trop sur le photovoltaïque en ce moment ou pas?
Sur les grandes surfaces, dans les... Bon, je dis, c'est pas mal, mais je dis, moi, aujourd'hui, je considère sur du photovoltaïque, je dis oui au photovoltaïque, hein, j'en ai chez moi.
Chez particulier.
Mais comme je dis, c'est pas... la cerise sur le gâteau, mais c'est le gâteau sur la cerise actuellement.
D'accord.
Voilà. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord se dire, on met un équipement qui va consommer, mais est-ce qu'on a réellement fait le point? Je sais que je dis une fois de plus, il y a certains garde-fous au niveau de la région, mais au niveau national, il y a des gens quand même qui passent en force et qui vont mettre de toute façon du photovoltaïque sur des maisons qui vont consommer 3 fois plus de ce que ça va produire. Voilà, avec de l'argent public. Donc là, on n'optimise pas forcément le résultat.
Oui.
En complément, je dirais que si on investit dans l'isolation de la maison, ce qu'on peut investir dans une installation photovoltaïque, on va faire une économie d'électricité ou de fioul ou de bois. En fait, les gens, ils savent calculer quand ils amassent de l'argent dans la poche, ce qui est le cas avec la photovoltaïque, mais ils ne savent pas faire de soustraction par rapport à leur budget. Maîtrise depuis des années d'une certaine manière et de se dire aujourd'hui je consomme 2 000 € de chauffage par an, demain je vais en consommer 500 €, je vais donc gagner 1 500 € de manière durable vraiment. Ils savent pas faire cette gymnastique, ils ne savent que faire des additions. Et donc il y a quelque chose à faire de profond au niveau culturel sur ça.
comme je dis, bon, moi je me considère comme un privilégié avec tout ce que vous avez vu, mais bon, c'est pas le reflet de la société, hein, tout le monde accédera pas à ce que j'ai fait. En théorie, j'aurais dû commencer par rendre performante la maison, mais il y a 10 ans, on n'avait pas fait, on est en train d'évoluer, et je veux dire, même moi, il y a 10 ans, j'avais pas du tout cette notion, je mettais de la laine de verre, etc., etc., parce que j'avais pas cette connaissance, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros travail de communication pour permettre aux gens, justement, d'accéder à ces informations. Mais je voyais tout à l'heure les espaces info-énergie, pour rebondir là-dessus. Les espaces info-énergie, ici, dans le département de la Vienne, c'est vrai que les 3/4 du département, de la population du département est située entre l'axe Poitiers-Châtellerault. Donc, et les espaces info-énergie se retrouvent là. Mais vous avez le Mont-Morillonnais, il y a peut-être l'ANA, ou je ne sais pas, mais et le Loudonnais, là, il n'y a pas d'espace info-énergie. Donc, il y a quand même des vides aussi.
Alors, ça n'a peut-être pas fait les choses dans l'ordre en mettant du solaire et du photovoltaïque chez toi, mais cela dit, ça a au moins permis de pouvoir prouver aux gens qui n'étaient pas convaincus que le soleil était une source d'énergie renouvelable qui fonctionnait correctement et qui apportait des résultats. Bon, après, et ça, c'était important de le prouver, parce qu'à l'époque où tu l'as fait...
Non, mais bon, j'ai fait des erreurs, on va dire, mais par rapport à l'information, au savoir qu'on avait à l'époque, voilà, on a fait...
C'était nécessaire.
Jean-Christian, on ne vous a pas entendu de la soirée. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça?
J'ai beaucoup écouté, et donc je peux parler, effectivement. J'ai entendu ce soir des choses extrêmement intéressantes. Moi aussi, j'ai appris énormément de choses. Je remercie vraiment les interlocuteurs qui sont venus ici et leur qualité. C'était vraiment un très bon moment. J'aurais voulu, enfin, peut-être participer à ça, mais déjà il y avait trop de monde et apporter une facette plus technologique. En fait, la maison économe a une approche technique de la précarité énergétique. On s'efforce toujours lorsqu'on engage une action, que ce soit dans la construction, la rénovation ou l'aménagement d'un appartement chez des gens lambda, de faire ça à moindre coût. Que même pour des investissements extrêmement modestes, on arrive à des résultats qui sont extrêmement conséquents. Voilà. Alors ça, ce sera le, on va dire, l'axe du sujet qui sera développé demain dans la conférence sur l'habitat de haute performance qui se déroulera à la médiathèque à partir de 14h.
Merci à l'Espace Monde France et aux techniciens. Bonne soirée à tous, bon retour pour ceux qui viennent de loin. Oui.
Vous êtes habitué à parler que dans un sens, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'échanges. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être qu'envie de rentrer, mais je trouve dommage.
Bah, je ne sais pas, j'ai sollicité un petit peu tout le monde, enfin, j'ai eu le sentiment, peut-être pas suffisamment, mais après, ceux qui veulent rester de discuter, je veux bien. Mais...
on pourra en parler, je crois qu'il y a un point à la fin, il me semble aussi.
Ah, bah alors, bah, c'est formidable. Alors. Bon, bah, très bien. Je ne vous chasse pas. Hein.